Les messages de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Bonsoir à tout le monde. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie. Merci de nous préserver, de préserver notre foi. Toi-même tu as dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Si nous sommes là, toujours en train de confesser ton nom, c'est parce que tu nous gardes Seigneur. Nous nous abandonnons une fois de plus entre tes sûres mains et nous dépendons de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Homme de Dieu, femme de Dieu, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. On n'est pas en train de parler aux pasteurs et aux hommes de Dieu. On n'est pas en train de vous parler du ministère. On est en train de parler dans le ministère, on parle d'un aspect spécifique. C'est vrai que c'est un aspect qui renferme presque tout, parce qu'en vérité, si un enfant est en bonne santé, il n'y a pas de raison qu'il ne croisse pas.
Yes.
Si un enfant est en bonne santé, il n'y a pas de raison qu'il ne croisse pas. Si un enfant n'est pas en bonne santé, il court le risque de mourir. Donc, une église fonctionne comme un enfant. Quand un enfant est en bonne santé, l'enfant grandit. Quand une église est en bonne santé, elle grandit. Si une église ne grandit pas, c'est que même si on ne voit pas ça, elle n'est pas en bonne santé.
Yes.
Amen. C'est la croissance n'est pas une chose seulement spirituelle. La croissance, c'est une chose qu'on peut étudier même dans la vie naturelle. Il y a beaucoup de choses qui croissent.
Yes.
La verdure, les plantes, les animaux, les êtres humains. La croissance n'est pas une chose qu'on doit essayer de cerner seulement sur le plan spirituel. Il n'y a pas que l'église qui veut grandir. L'économie, le Gabon, par exemple, en ce moment, veut relever son économie, n'est-ce pas?
Yes.
Yeah. Beaucoup de secteurs, on veut que ça grandisse. Donc la croissance est un facteur qui peut être l'objet d'une étude et d'une observation. Donc il ne faut pas qu'on lise ça seulement à l'église. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on peut croître ou décroître. Et ce qui est bien avec la croissance, c'est que la croissance répond aux mêmes lois. Ça veut dire, de même que la poule grandit, c'est la même loi qui fait grandir l'être humain. C'est la même loi qui fait grandir l'économie. C'est la même loi qui fait grandir l'église. C'est les mêmes lois. Voilà. Wow. Et un des principes de la croissance, c'est que si la chose qui veut grandir est en bon état, elle grandit. Si elle n'est pas en bon état, elle ne grandit pas. Peu importe la chose, même l'église.
Wow.
Donc la non-croissance signifie que la chose n'est pas en bon état, y compris l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la croissance n'est là que si les lois de la croissance sont respectées. Ne pensez pas d'abord à l'église. Enlevez la pensée de l'église dans votre tête. Pensez à n'importe quoi qui grandit.
Yes.
La croissance n'est là que si les lois et les principes sont respectés. Quand elle n'est pas là, ça veut dire que les lois et les principes ne sont pas respectés. Par exemple, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des comptes d'épargne. Hein? Il y a des gens qui ont des comptes en banque d'épargne. Même si on ne parle pas dans les comptes d'épargne, même si on reste seulement même avec des... Même avant, il y avait des gens qui avaient des coffres. Hein? Yes. Où ils devaient mettre un peu d'argent à l'intérieur. Il s'est promis que chaque mois, il met 10 000. Au début, il commence. Il met 10 000. Ça fait 5 mois qu'il a mis 10 000. Après, lui-même, lui-même, il va, à cause d'une circonstance, il retire, n'est-ce pas? Ça, ce n'est plus une épargne. Si tu peux toucher à ça, là, tu n'épargnes plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tous ceux qui croient, normalement, il y a des règles à respecter. Dès que tu ne respectes pas les règles-là, la croissance n'est pas là. Et ça, c'est une information importante. L'information importante, c'est laquelle? C'est que si une chose ne grandit pas, c'est qu'elle n'est pas en bon état. Si une chose ne grandit pas, c'est qu'elle n'est pas en bon état. Je suis vu un documentaire. Il ne faut pas croire que les pygmées sont en bon état.
Yes.
Non, je suis vu un documentaire. Les pygmées ont une déficience.
Yes.
Il y a une carence. Vous comprenez ça? Yeah, yes. Les scientifiques disent qu'ils ont une carence au niveau de la croissance. Donc, il ne faut pas croire que... Non, tout ce qui vit grandit. Ça, c'est la loi de Dieu. Tout ce qui vit grandit. Parce que la vie, dans la vie, il y a la croissance. Yes. Tout ce qui vit grandit. Tout ce qui fonctionne grandit. Si une chose vit ou fonctionne, si elle ne grandit pas, c'est que, par exemple, j'ai un de mes pasteurs ici. Lui, il a pris sa retraite à la CNSS. C'est ça, non? On a failli déjà... plusieurs fois fermé la CNSS, non? Ok. Le problème de la CNSS, c'est quoi? Quelles sont les lois qui n'ont pas été respectées? Parce que les gens ont tiré les taxes aux gens tout depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui est le problème de la CNSS, c'est quoi? Mauvaise gestion, non? Il y a juste des lois qui ne sont pas respectées. Une structure qui prélève des taxes tous les mois. Pourquoi n'a-t-elle pas d'argent?
Oh yes.
Mais c'est simple. C'est parce que quand ça rentre, n'est-ce pas? On vole, on prend, il y a des fuites. C'est pourquoi. Donc dès qu'une chose ne grandit pas, c'est qu'en réalité, il y a des lois qui ne sont pas respectées. Yes. Donc quand on parle de croissance d'église, au fond, on est inscrit là comme à une sorte de... comme la mère de la science même. Parce que quand on parle de croissance de l'église, ça veut dire la croissance de l'église va nous amener à voir les sujets même qu'on ne veut pas voir et à respecter les principes qu'on n'aurait même pas respectés si on ne veut pas faire grandir son église.
Amen.
Parce que la croissance t'impose. Je ne sais pas si vous comprenez.
Yes. Oui.
La croissance t'impose. Je crois qu'ils ont changé le régime en ce moment. C'est maintenant, on a un saint privé, non? Pas encore. Je pense, voilà, c'est pas encore effectif. Donc, c'est encore le public, c'est encore l'État qui gère. Donc, les retraités sont toujours en danger. Yes! C'est-à-dire, on pense, j'ai entendu quelque part qu'on pensait même, n'est-ce pas, donner ça à un privé. Comme quoi, c'est comme si eux, ils respectent les... Yes, il est tenu de respecter les lois. Par contre, quand c'est comme ça, quand c'est les autres, les lois. Donc, si, comme cette plante, si la plante, si on ne respecte pas, qui peut me donner une idée, qui peut me donner ici une idée d'une loi qu'il faut respecter pour que cette plante croisse? Une idée, une loi. Hein? L'eau, arrosée. Si vous ne respectez pas cette loi, la plante ne grandit pas. Donc la croissance de l'église, c'est la même chose. Il y a des principes et des lois que si vous ne respectez pas, vous ne pouvez pas voir la chose grandir. Je suis en train de dire une chose qui est très importante, mais je sais que ce que je dis peut ne pas être important quand on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Regardez l'exemple. Vous avez la même plante, vous donnez la même plante à deux pasteurs. Chez un, ça meurt, chez l'autre, ça ne meurt pas. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie qu'il y a un qui respecte les lois qui permettent à cette plante de vivre. Et puis, il y a un autre pasteur, il a la même plante, mais lui ne respecte pas les mêmes lois. Alors, maintenant, suivez. On vous donne la même plante, chez toi, ça meurt, chez l'autre, ça ne meurt pas. Il n'y a rien de compliqué à l'intérieur. Quelle est l'information qu'on peut en tirer? Mais la mort de la plante nous informe sur l'état de ton esprit.
Yes.
Regardez, je vais vous amener. Regardez, regardez où on va. On vous donne une plante et on vous dit, premier principe, il faut l'arroser. Deuxième principe, il faut qu'elle soit au contact de l'extérieur. On vous donne deux lois. On vous dit, respectez d'abord les deux lois-là. Elle va grandir. Vous êtes deux pasteurs. Premier pasteur, la plante sèche et meurt. Deuxième homme de Dieu, la plante grandit. Donc, le premier constat qui a été fait, c'est que un des hommes de Dieu n'a pas respecté les deux lois qui lui ont été données. À cause de ça, la plante est morte. Mais la mort de la plante ne nous informe pas seulement de ce que la plante n'a pas reçu comme loi. La mort de la plante nous informe aussi de l'état d'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. Yes. Donc, dans la croissance, on a toutes les informations dont on a besoin. Par exemple, la déchéance de la CNSS nous informe de quoi? Que les gens qui sont venus là sont des voleurs. Ceux qui ont déjà sont des voleurs. Ça ne nous informe de rien d'autre. Ça nous informe seulement que ceux qui ont géré ça là étaient des voleurs. Juste ça. Il ne faut pas passer par beaucoup de chemin. Ça ou c'est pas ça? Non. Donc la mort de la plante nous dit dans un premier temps qu'elle n'a pas été entretenue, que les lois n'ont pas été respectées, mais ensuite, elle nous donne une autre information. C'est que le pasteur à qui on a remis cette plante a un état d'esprit qu'il faut revoir. Donc, l'absence de croissance de l'Église nous informe que je ne comprends pas certaines lois, mais nous informe aussi de la maturité, des différentes, l'immaturité que nous avons dans différents principes. Donc, normalement, s'inscrire à la croissance de l'Église me change. Ça va me changer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que le défi de la croissance d'une chose va m'inviter à revoir mes tendances. Yes. Parce qu'on va poser la question. La plante est morte pourquoi? Parce que je ne l'ai pas arrosée, parce qu'on ne l'a pas amenée dehors pour qu'elle soit au contact du soleil. Ok. Maintenant, on pose les autres questions. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Là, maintenant, c'est plus pour savoir pourquoi la plante est morte. Parce qu'on a déjà les deux principes pourquoi elle est morte. Maintenant, on pose la question. Pourquoi vous n'avez pas respecté ces deux principes? Là, maintenant, ça retourne vers la personne.
Yes.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi nous sommes bénis d'avoir eu la soif de vouloir apprendre. Parce que en allant vers la croissance de l'Église, on a découvert que le ministère que tu fais est un problème. Tu as un problème. Donc la croissance de l'Église devient comme un miroir. Ça permet à celui qui veut faire grandir l'Église de découvrir ses carences personnelles.
Yes.
C'est-à-dire, les gens, quand je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes que nous on a et qu'on travaille avec, les pasteurs en formation, ils se disent, je prie, je jeûne, mais pourquoi ça ne grandit pas? Non, c'est parce que jusqu'alors, tu n'as pas encore pris la croissance comme un miroir. Il y a quelque chose dans ta manière de vivre, la foi, le ministère, que si tu deviens humble, la croissance de l'Église que tu poursuis là va te montrer dans le miroir tes carences.
Yes.
L'Église ne grandit pas pour que tu changes. Je vais répéter.
Yes.
C'est où tu changes ou l'Église ne grandit pas. Si l'Église doit grandir, tu dois changer.
Oh yes.
Et ça, c'est une grande école. Donc Dieu fait exprès. Si tu veux que l'Église grandisse, tu dois changer. Si tu sens que tu ne veux pas changer, alors l'Église ne grandit pas. Entre tes mains. Elle grandit ailleurs, mais pas entre tes mains. C'est clair? Vous me suivez là? Yes. Donc c'est un défi en réalité. Le but de cette école de croissance de l'Église, c'est amener, vous allez tous ceux qui ont des méga églises, les papas qui nous servent de repère, parlent le même langage. La croissance de l'église a affecté considérablement leur perception du ministère. Considérablement. Donc, ils ont changé parce qu'ils voulaient faire grandir leur église. Donc là, on est dans une logique de quoi? De bras de fer. Ça, si tu veux que ça change, tu changes. Si tu ne veux pas changer, ça ne change pas.
Oh yes.
Rien d'autre. Il n'y a pas la sorcellerie à l'intérieur.
Amen.
Et il n'y a pas une grâce particulière. Il ne faut jamais croire que la croissance de l'église, c'est une grâce particulière. Il n'y a pas. C'est juste des principes et des lois à obéir. C'est clair? Il n'y a pas de grâce particulière. David de Yérépo n'a pas une grande église parce qu'il a une grâce particulière. Non. C'est juste des principes et des lois. Là, je dis des choses que eux-mêmes ils disent, même dans les formations, eux-mêmes ils disent. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de grâce particulière à l'intérieur. C'est la même chose avec les magasins, la même chose avec les stations de service qui vendent le carburant. C'est la même chose avec le commerce. Tu vois, quelqu'un qui m'a expliqué, un pasteur qui m'a expliqué que il y a un monsieur qui fait sa pizzeria qui marche très bien quelque part. Et il dit que le monsieur, avant de lancer sa pizzeria qui marche très bien, il vendait des sandwichs là au lycée d'État. Il vendait. Et aujourd'hui, il y a une pizzeria qui marche très bien. Ah bon, oui, ça fait des années qu'il vendait le sandwich. Donc il est bien quitté des sandwichs. Ça dit que tu payes le pain quelque part, tu fais du sandwich. Et puis, et il a, puisqu'il a respecté les lois, n'est-ce pas? Il a respecté les lois. Il n'a pas mangé le bénéfice, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, n'est-ce pas? Et donc il est quitté de là, de la vente, devant un établissement, à un endroit, maintenant, et il a beaucoup de personnes maintenant qui travaillent pour lui. Beaucoup de gens travaillent pour lui. C'est juste les lois, c'est pas, c'est pour pas, faut arrêter de croire. Bon, si on dit qu'il y a la grâce dedans, mais c'est la grâce d'être normal. C'est juste la grâce d'être normal, c'est pas une grâce particulière. Là, je veux que les gens aient surtout. Je parle en même temps là, mais je parle en même temps, je m'adresse encore, je m'adresse 200 fois plus aux jeunes. Quand une chose qui grandit dans les mains de tous les autres, ou dans les mains des autres, ne grandit pas dans tes mains, ça t'informe sur ton état d'esprit. Je veux que les gens comprennent ça. Vous savez, quand j'ai compris ce principe, moi je ne suis pas étonné de mes échecs. Il n'y a pas un domaine dans lequel j'échoue où je suis étonné. Jamais. Ça, c'est pas normal. Demandez à un étudiant qui n'a pas étudié son cours et qui a un examen, pourquoi il a zéro. Est-ce qu'il est étonné? Bon, il est étonné pourquoi? Il n'a pas étudié. Alors que les pasteurs, nous, on est étonnés. On ne sait pas pourquoi ça ne grandit pas. Oh Seigneur, montre-moi. Montrez quoi? Tu es étonné comment? Est-ce qu'on est étonné que la CNSS ne marche pas? Est-ce qu'on est étonné que la CNSS ne marche pas? Il y a une année là où on a attrapé un responsable de la CNSS en France avec 1 milliard ou quoi, 200 en France. C'est passé dans les médias, non? Alors, mais la CNSS ne marche pas, on est étonné. On est étonné de quoi? La croissance respecte seulement les lois. Dès que les lois ne sont pas respectées, il n'y a pas croissance. C'est fini! Mais non, pourquoi il n'a pas arrosé la fleur et il n'a pas mis la fleur dehors? La question maintenant reste ça là on ne peut pas répondre. On peut répondre pourquoi la fleur est morte. Elle est morte parce qu'il n'a pas arrosé et il n'a pas exposé dehors. Ok, maintenant la question c'est, mais pourquoi le pasteur n'a pas arrosé la fleur et n'a pas mis la fleur dehors? Qui répond à ça? Ça je ne connais pas. Deux fois parce que le pasteur, ou c'est un sorcier, ou bien il a avec sa femme, ou bien le pasteur fume, ou le pasteur se drogue, ou le pasteur... je ne sais pas, les raisons, là, on ne peut plus trouver ça. Parce que là, maintenant, c'est la personne qui elle-même peut dire, n'est-ce pas, pourquoi elle n'a pas amené la fleur dehors et puis arroser la fleur. C'est la même chose avec l'Église. On peut expliquer pourquoi l'Alliance chrétienne a grandi, mais on ne peut pas expliquer pourquoi mon Église ne grandit pas. Ça, moi-même, je connais.
Oh, yes.
Yes. La croissance peut s'expliquer. Le manque de croissance ne peut pas s'expliquer. On sait seulement qu'il y a des lois qui ne sont pas respectées. Pourquoi? On ne sait pas. Maintenant, la personne elle-même elle connaît. Qui comprend ce que l'on entend de dire? Yes! Yes! Même les médecins, vous amenez l'enfant à la fièvre, et puis en arrivant à l'hôpital, l'enfant est mort. Les médecins vont vous poser la question, il y a eu quoi? Parce que normalement, en temps normal, si vous avez bien fait les choses, l'enfant devait grandir. La mort de l'enfant est anormale. La croissance de l'enfant est normale. Donc la croissance de l'église est normale. Le manque de croissance de l'église n'est pas normal. Il faut s'interroger. Et on va trouver ça dans les appétits, les goûts, la manière de faire, etc., etc. Si on fouille, vous allez trouver pourquoi ça ne grandit pas. Qui comprend comment ça se passe?
Oui. Yes.
Ça, je veux, parce que les gens pensent que la problématique se trouve au niveau de la complexité de pourquoi ça n'avance pas. Non. Ça doit avancer. Si ça n'avance pas, c'est qu'il faut trouver simplement auprès de la personne. Donc, ne soyez pas étonnés en ce qui concerne Dieu quand une chose ne marche pas. Il n'y a pas d'étonnement dedans. C'est qu'il y a des principes que vous ne respectez pas, simplement. Par exemple, il y a des gens qui vont respecter des lois pendant 3 ans. Dans beaucoup de secteurs, il y a des gens, même dans les entreprises, qui vont respecter des principes pendant 3 ans. Et puis, à partir de la 4e année, n'est-ce pas, ils ne respectent plus les mêmes principes qu'ils respectaient. Et donc, la chose qui a bien commencé, vous savez, nous, dans le monde francophone, nous savons commencer l'église, pas continuer. Dans le monde francophone, nous savons commencer le ministère. Mais à un moment, il suffit qu'une chose apparaisse, un peu de gloire, un peu d'argent, un peu d'être connu. Vous voyez comment les ministères francophones ne montent pas pendant des années. Les ministères francophones montent après, ça tombe, ça tombe. Yes. Des fois, je me pose la question, où sont les grandes prophétesses dont il y a 10 ans au Gabon, qui bougeait, prophétestant au Gabon. Chez les francophones, la gloire ne dure pas. Pourquoi? Parce que les principes ne sont pas respectés longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une tendance francophone. C'est une tendance francophone. Les francophones, quelqu'un commence quelque chose, même les entreprises, hein. Même entreprise, société, c'est pourquoi il faut. Je crois que Petro, c'est un Gabonais, non? Petro. Les gens comme ça, il faut féliciter, il faut acclamer des gens comme ça, qui maintiennent des entreprises un peu longtemps, il faut acclamer des gens comme ça. En général, le francophone, dès qu'il touche seulement un peu la gloire, whoop, je ne sais pas si vous comprenez, y compris dans le ministère. Même chez les plus jeunes, tu entends un petit jeune prophète là, tu le vois partout à la télévision, qui la première, oups, dès qu'il touche un peu. Pourquoi? Ce n'est pas une malédiction, c'est simplement que nous ne savons pas garder les lois longtemps. Donc c'est un problème, on appelle ça un problème de caractère. Il faut travailler le caractère. Par exemple, tu décides d'être fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc il faut travailler le caractère spirituel. C'est très visible. Moi je vois ça tous les jours. Même dans mon église, c'est comme ça. Peut-être même que moi-même je suis comme ça. Ça dit, on commence une chose, tu vois, les gens font bien. Après, pic, ils ne durent jamais dans la gloire. Il te suffit de dire seulement à un frère même qui chante bien. Ah, le frère là, il chante bien. Il va seulement faire 3 ans, 4e année. Il chante plus bien. Il n'est plus même chrétien. La gloire dans le monde francophone tue vite les leaders. Simplement parce que les principes ne peuvent pas être gardés longtemps. Donc, je termine avec ça. La croissance est une chose normale. Le manque de croissance, par contre, il s'agit des lois qui ne sont pas respectées. Et le manque de croissance nous permet de faire une introspection. Avec le manque de croissance, on peut découvrir qui nous sommes. C'est un indicateur puissant qui nous informe qui nous informe. Je parlais avec une agence responsable d'une banque. Et puis il me disait, les Gabonais, nous hésitons maintenant de leur donner des Gabonais qui ont des entreprises, de leur donner des crédits. Et je dis, pourquoi? Ils disent, non, parce que tu vois, quelqu'un, il amène un bon dossier. Il présente un bon dossier. Et on lui donne un crédit. Il dit, mais à la fin, ce pourquoi il n'a plus de crédit là, c'est pas ce qu'il fait avec. Mais non, c'était non. Et la personne me disait, ici au Gabon, hein, une banque, la personne me disait, c'est différent avec les étrangers. Il prend le crédit, il fait ce qu'il a dit. Mais le Gabonais, il prend bien le crédit comme ça. Il a fait un bon dossier. Il a convaincu la banque. Quand il attrape ça comme ça. Waouh! Un jour, un pasteur vient chez moi à 6h du matin. Hey, les lundis, c'est notre jour de repos. Donc 6h du matin. Moi, je ne reconnais jamais quand on m'appelle le matin. Le matin, c'est pour Dieu. Le matin, il y a des gens qui appellent les autres le matin. C'est-à-dire, il prend le téléphone. 6h. Il appelle. Hey, c'est sauf si quelqu'un est mort. On n'a pas le droit d'appeler les gens le matin. Le matin, c'est pour Dieu. Et je vois, 6h du matin, c'est pas qu'il a appelé. Il était chez moi. 6h du matin. Il dit, pasteur est là. Il y a quel problème? Je sors. Quand je sors, il a la tête baissée comme ça sur la table. Il dit, je m'assois. Oui, il y a quoi? Il dit, sauve-moi. J'ai dit, qui t'a sauvé? Moi, je ne suis pas un sauveur. Il dit, sauve-moi. Te sauver pourquoi? Il dit, non, sauve-moi. Il dit, on est sorti le matin pour amener les enfants à l'école. Et pendant qu'on était dans la voiture, ma femme a ouvert la porte, elle a sauté. Oh! Il a sauté, sauf que j'ai freiné. Elle était fâchée, elle a sauté. Sauve-moi, elle a dit qu'elle quitte la maison. J'ai dit, une femme ne saute pas la voiture comme ça. C'est pas possible. Explique. Il dit, bon. Quand j'ai pris le crédit, ils se sont entendus au départ de ce qu'ils allaient faire. Mais dès qu'il a pris le crédit, d'abord il est rentré tard. Le matin, quand la femme sort comme ça, elle va à la cuisine, elle regarde dehors comme ça, une nouvelle voiture qu'il a achetée. Donc quand la femme a sauté la voiture là, c'est pour dire, je descends de ta voiture là. On a dit qu'on achetait le terrain, tu peux acheter. Ouais. Donc le Gabonais, il peut aller au départ, c'est clair. Mais dès qu'il touche, les francophones sont comme ça. Vous savez, quand un nouveau francophone dit à Dieu, je vais te servir, les anges disent à Dieu, oh, on les connaît. On les connaît, ça c'est les mêmes gens là. Et des fois, nous on fait avec Dieu comme à la banque. On convainc le Seigneur. Tu es en jeûne et en prière, tu dis Dieu, je ne suis pas pareil. Je ne suis pas pareil. Moi, je vais vraiment faire. Dieu regarde. Il te regarde comme ça. Les anges disent, ce sont les mêmes gens. On les connaît. Donne seulement 3 ans, tu vas voir. Ça monte après. Ouf! Alors que la croissance, elle, jusqu'à maintenant, les enfants croissent. Nous croissons jusqu'à maintenant. N'est-ce pas, non? La croissance, c'est des principes qu'il faut garder. Regardez, vous mangez depuis quand? Vous voyez? Vous mangez depuis quand? Vous dormez depuis quand? Est-ce que vous avez arrêté de dormir? Non, vous dormez toujours. Donc, tant que les lois-là sont respectées, se nourrir, manger, tant que c'est respecté, il y a toujours croissance, jusqu'au vieillissement. Donc, si on veut faire grandir une chose, au lieu de chercher à la faire grandir, il faut d'abord se rassurer qu'on a des habitudes qui vont se maintenir sur le long terme. Ce qu'on appelle le caractère. Quand tu n'as pas le caractère de la croissance, même si tu provoques les lois, tu vas t'arrêter en chemin. Quand tu n'as pas les lois, nous on a provoqué la croissance depuis 10 ans. En ce moment, j'ai beaucoup de mes chrétiens, pasteurs, ils ne veulent plus croire en Jésus-Christ. Donc j'essaie de leur dire que non, Jésus-Christ est toujours Dieu. 10 10 ans après, le Gabonais veut déjà arrêter. Parce que c'est des lois. Tu manges depuis combien? Si quelqu'un a 70 ans, c'est qu'il dort depuis quand? 72 ans. Si quelqu'un a 65 ans, c'est qu'il mange depuis quand? 60. Et c'est ce que quand vous écoutez, les grands ministères, vous allez voir le papa David Oyedepo, il vous parle de depuis 40 ans. Il vous parle de depuis tant. Et quand vous voyez leurs collaborateurs, c'est, ils ont le même temps. Ça, c'est mon fils spirituel. Oh, tu étais avec moi, oui. On a commencé depuis. Ouais. Il lui dit 40 ans. 40 ans. La même chose. La même Bible. Le même Jésus. La même foi. Donc, c'est pas. C'est le défaut n'est pas au niveau des notions, mais de la personne. Bishop David de Oyedepo vient de finir le Shiloh. N'est-ce pas? Allez-y voir. Combien de plus de temps? Combien de temps? On va vous dire. On va pas vous dire 2 ans. On va vous dire là comment ça depuis. Le problème, c'est maintenir longtemps. Il y a certains peuples qui ont le caractère de maintenir longtemps. Et puis il y a des peuples, ils peuvent avoir trouvé l'or. Ce qu'ils ont trouvé vient vraiment de Dieu. Mais ils ont un défaut. Ils n'ont pas le caractère. Donc, ils ne vont faire que 3 ans. C'est voilà pourquoi beaucoup de ministères meurent en Afrique francophone, y compris au Gabon. Beaucoup de ministères meurent. Parce que il vous faut vous-même avoir le caractère de vous maintenir longtemps et ensuite avoir des collaborateurs qui vont croire en vous et être avec vous longtemps. Je sais de quoi je parle. Ils vont vous abandonner au Gabon, en Afrique francophone. C'est pourquoi je suis impressionné par les ministères comme les pasteurs Mohamed Sanogo, les pasteurs, parce que c'est des ministères francophones. Quand t'es francophone dur, il faut l'acclamer. Quand t'es francophone dur, il faut l'acclamer. C'est ou c'est lui qui change, ou c'est ses collaborateurs qui quittent. La raison n'est pas un problème. La raison, c'est l'incapacité de la constance. Certains peuples n'ont pas développé, en termes de caractère, la constance. Ils n'ont pas développé ça. Ce sont des habitudes qui ne sont pas beaucoup francophones. Et c'est pourquoi je parlais de samedi, que si on a la réunion de prière de samedi, on va vous montrer comment la prière est importante à condition qu'elle dure longtemps sans jamais s'arrêter. Ce qu'on appelle l'esprit de prière. Si vous priez sans l'esprit de prière, vous allez bien prier, mais vous arrêtez un moment. Il faut l'esprit de prière. Yes, il faut l'esprit de prière. Parce que avoir bien prié 10 ans, c'est comme avoir bien mangé 10 ans. La 11e année, la nourriture de 10 ans ne te suffit pas. Il y a des choses qui ne sont puissantes que si elles continuent. Si elles ne continuent pas, tu tombes. Donc la prière, même si tu as bien prié hier, si tu ne pries pas aujourd'hui, la prière d'hier ne te sauve pas aujourd'hui. C'est comme la nourriture. Qui se souvient de la nourriture qu'il a mangée le 31 décembre 2022? La nourriture qu'il a mangée le 31 décembre 2022. Elle ne t'est plus utile. Ce n'est même plus dans ton corps. Donc c'est le 31 2023, là, tu vas encore manger. Donc il y a des choses qui ne sont puissantes que si elles sont jointes à un caractère de constance. Mais si la constance n'est pas là, même si la chose est puissante, elle va s'arrêter. Donc il y a un caractère à développer. Il y a du caractère à développer pour durer longtemps. Longtemps. Il n'y a pas de plus grande force que de continuer. Il n'y a pas de plus grande force. La vraie force, c'est continuer. La vraie force, ce n'est pas être fort. Hein. La vraie force, c'est continuer. Tu peux être fort, mais si demain tu n'es plus fort, c'est fini. La vraie force, c'est continuer. Sans s'arrêter. La vraie force, c'est continuer sans s'arrêter. C'est pourquoi, si tu cours plus vite que quelqu'un, mais tu t'arrêtes devant, si lui court plus lentement que toi, mais il continue, il te rattrape et il te dépasse. Donc la vraie force, c'est continuer. C'est pas seulement, c'est pas impressionner, c'est pas épater. La vraie force, c'est continuer. C'est pourquoi, à chaque fois que des interférences veulent vous arrêter, sachez que c'est le diable. Yes. À chaque fois, peu importe les raisons, dès qu'une chose, moi, là je suis en train de citer les textes de la Bible, hein. Paul dit dans Galates 5, quoi, il dit quoi? Ce qui vous arrête là, cette influence là, c'est pas ce que Paul dit, Galates chapitre 5, il dit, cette influence là ne vient pas de la personne qui vous a appelé. La force qui vous arrête ne vient pas de la personne qui vous a arrêté. Même si vous ne voyez rien, retenez que la force qui vous arrête ne vient pas de la personne qui vous a appelé. Yes. Et c'est pourquoi j'en parle tout le temps à mes membres ici. Dis non. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Si quelque chose veut l'attirer, c'est Satan. Même si ça vient sous la forme de c'est Satan, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vous arrête ne vient pas de Dieu. Alors je vous encourage donc à faire avec moi cette prière de croissance samedi où on va prier pour chaque ministère. C'est la fin de l'année. Yes. Peut-être que 2024 est l'année de la grande croissance de ton église. Et il est important que tu saches que ce ne sont pas les méthodes qui font grandir ton église, c'est le spirituel qui fait grandir ton église. Et tu dois savoir que nous sommes, nous, dans le monde francophone, une zone malade sur le plan spirituel. Peu importe la croissance que tu peux avoir, nous avons une carence, nous avons un problème, nous montons et nous ne durons pas. Notre zone, c'est pas moi qui le dis, c'est depuis des années comme ça. Notre zone, on peut faire un ministère, on monte, mais on ne dure pas en haut, on tombe. Parce qu'on ne sait pas garder les mêmes principes longtemps. Ce sont des choses qui sont en nous. Il faut des choses qu'il faut brûler, qu'il faut détruire, qu'il faut casser. Mais c'est en nous. C'est pas notre génération qui a expérimenté ces carences-là. C'est depuis avant nous. Depuis avant nous. Quand vous regardez nos églises francophones, allez-y. Moi, j'ai fait ces observations. Allez-y vérifier les dates, le début. Vous allez voir que beaucoup de nos églises francophones ont commencé comme certains ministères anglophones. Même période. Mais regardez la différence. Regardez la différence. C'est incroyable. Incroyable. Nous avons des églises miniatures qui ont commencé à la même période. À la même période. Mais nos églises restent miniatures, mortes, faibles, embryonnaires, sans membres. Avec l'ombre d'elle-même. Ça veut dire le nom est resté, mais il n'y a même plus les gens. C'est quelque chose qu'on remarque chez les francophones. Et ce qui est plus grave, c'est que je ne savais pas que les anglophones le savaient. J'ai découvert que les anglophones le savent. Ils en parlent même. Ils en parlent même. Et Chebdag a fait un camp. Je le disais au pasteur, Ivan Kassamu et les autres, que Chebdag a fait un camp. Où le thème de son camp, c'est Seigneur, aie pitié des francophones. Le thème du camp, ça veut dire quand tu viens au camp, et il a fait ça avec les francophones, hein, c'est avec les francophones. Le thème, c'est Seigneur, aie pitié des francophones. Aie pitié d'eux. Regardez, c'est pas qu'il dit aie pitié des Gabonais, non, des francophones. Les francophones. Et quand vous écoutez, je crois que j'ai encore des vestiges de son message là. Parce que ça s'est succédé. Quand vous écoutez son message, j'ai été épaté. Mais Bishop Daddy One Miss a fait une étude des francophones jusqu'à nos présidents. Et dans tout son message, il démontre que les francophones ont la tendance au plaisir, au jeu, au travail. Il le demande par nos présidents, nos autorités, y compris nos leaders. Il dit que voilà la tendance des francophones. Donner un francophone un poste, vous allez vous rendre compte que de son poste là, il va avoir les femmes, il va avoir ceci, il va avoir cela, il va avoir ceci, il va avoir cela. Donner aux francophones le pouvoir, vous allez voir ce que le pouvoir lui donne. Le pouvoir revêt en lui des choses que vous ne saviez même pas qu'il avait en lui. Job l'a dit, Seigneur, les francophones, aient pitié d'eux. Yes. Les francophones, aient pitié d'eux. Donc, c'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne donne pas une grande église, parce qu'il ne fait pas amour. C'est de fois par amour. Dieu dit non, si vous donnez une grande église, ils meurent. Eux, donnez-leur des petites églises où ils vont toujours se battre jusqu'à ce qu'ils vont vieillir. Parce qu'au moins, là, ils resteront chrétiens. Parce que tu donnes un francophone un ministère qui grandit, tu vas découvrir des choses. Même lui-même, il ne savait pas qu'il était comme ça. Même lui-même, il ne savait pas qu'il était comme ça. Vous savez, il a fallu donner au fils prodigue sa part d'héritage pour découvrir qu'il aimait les prostituées. Tant qu'il n'avait pas sa part d'héritage, il ressemblait à son frère et il était comme un vrai obéissant chrétien, enfant de Dieu. Dès qu'on lui a seulement mis sa part d'héritage, des choses qui étaient enfouies en lui, dans sa nature, ont surgi. Et c'est ce qui se passe avec les francophones. Dès que Dieu nous donne la gloire, dès qu'on touche ça, des choses que tu ne savais même pas. Des choses, par exemple, si tu crois par exemple au Père, quand tu as 3 membres, si Dieu te donne 500 membres, tu vois comment tu appelles papa, les pères maintenant, Django, comment ça va frère? Django. Oh, mon petit. Non, parce que c'est quand tu as 3 membres, donc Dieu dit, si on lui donne 500 membres, il change. Fais tout pour qu'il garde 3 membres. C'est comme ça que ça se passe dans le monde francophone. Donc c'est pas compassion qu'on a des églises qui ne grandissent pas. C'est pas compassion. Yes. Attendez. Dieu ne fait point exception de personne. Pourquoi, quand vous allez dans le monde anglophone, vous voyez des églises qui ne sont Seigneur. Ça c'est des églises. Le même Dieu qui ne fait point exception de personne. Pourquoi il fait ça? C'est par amour. Il a essayé. C'est pas que Dieu n'a pas essayé. Est-ce que vous savez que les anglophones ont des grandes églises, même dans nos pays francophones? Est-ce que vous savez que les anglophones ont des grandes églises avec la même monnaie que nous, le même sol que nous, les mêmes fidèles que nous? Leurs chrétiens sont des Gabonais comme nous on a des Gabonais. Mais chez eux, l'église est plus grande. La chapelle de vainqueur est plus grande que beaucoup d'églises ici. Comment on appelle le pasteur là qu'on a invité la fois dernière là? La cité de Dieu. L'église de la cité de Dieu est plus grande que beaucoup d'églises. L'église là, comment on appelle ça? Universelle. Vous n'avez pas des églises universelles ici? Hein? Essayez d'inviter un pasteur de l'église universelle, vous allez voir. Il ne vient jamais parce qu'il vous connaît. Même nous on a essayé, il ne vient jamais. Il dit non, ça c'est des francophones, ça c'est des Gabonais. Ils savent bien ici. Les anglophones viennent dans votre pays. Dans votre pays. Avec les mêmes fidèles. Attends, les fidèles des anglophones sont des. La chapelle des vainqueurs, c'est des Gabonais. Allez-y voir, c'est des Gabonais, c'est des vainqueurs. Allez-y voir, la chapelle des vainqueurs, c'est des Gabonais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas au niveau du pays. Le problème est au niveau de la mentalité des habitants du pays. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Comment voulez-vous que je loue et la chapelle de vainqueur arrive? Vous savez, la chapelle de vainqueur change ses pasteurs tous les 2 ans. Même ici au Gabon. Tous les 2 ans, il change de pasteur. Tous les 2 ans. Et Bishop Dag a envoyé un de ses fils spirituels, c'est pasteur Patrick, Ça non? Révérend Patrick, c'est un Ghanéen. Il y a une grande cathédrale en face là-bas. Grande cathédrale. Terrain, cathédrale. Il a des branches. Ils ont envoyé à Franceville, à Bitam, les missionnaires partout. Ils sont. Partout. Port-Gentil, cathédrale. Ce sont des Ghanéens. Ils ont, à Port-Gentil, ils ont commencé avec un Gabonais. Hein? Bishop là a commencé l'église à Port-Gentil avec un Gabonais. Vous savez où le Gabonais est parti? Tu sais ce qu'il est devenu, non? Vous savez ce qu'il est devenu, non? Oui, le Gabonais. Il a pris toutes les soeurs, les femmes, et puis il est tombé, il a arrêté l'église. On a envoyé maintenant un Ghanéen. Le Ghanéen là qui a fait la cathédrale, tout. Donc c'est un problème du francophone. C'est un problème de la zone là. Les émotions des gens de la zone là. Les pensées des gens de la zone là. Vous savez, moi en ce moment maintenant, si vous avez l'occasion de me suivre dans mes messages, à part notre formation, vous allez vous rendre compte que quand je prêche, moi mes fidèles, je les insulte, je vais acheter un fusil. Non, parce que si tu joues les francophones, je te dis la vérité, au Gabon, tu veux faire le service de Dieu, tu vas voir, on va te montrer. Tu n'es pas plus grand que tes pères. Ce qu'ils ont fait à tes pères, ils te le feront. Je vous parle en tant que Gabonais. Oh. C'est un monde où les gens peuvent abandonner même ceux qui marchent. Même ceux qui marchent. Ils ont un truc à l'intérieur d'eux où ils sentent comme si une voix leur dit « Arrête maintenant. Arrête maintenant, ne fais plus. » Demandez à mes quelques pasteurs, ils vont vous dire. Ça dit, si tu n'agis pas comme les anglophones, tu vas voir. Ça dit, même la chose qui marche, ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils doivent à un moment abandonner. Et quand tu leur demandes, il y a quoi? Ils te disent, il n'y a rien. Je ne sais pas. Je dois seulement te quitter. Je dois seulement arrêter de venir aux réunions. Je dois seulement arrêter de donner ma dîme. Je ne sais pas, il n'y a rien. Je ne sais pas, c'est comme si c'est à l'intérieur de moi. Donc c'est un truc francophone. Voilà pourquoi nous les francophones, on n'a pas de grand ministère. Parce que c'est une tendance chez les francophones. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que nos ancêtres ont posé des actes, on ne sait pas. Peut-être que nos ancêtres ont posé, peut-être que nos ancêtres étaient des traîtres pendant l'esclavage. Peut-être que c'est des traîtres qui ont vendu les œufs noirs. Peut-être. Mais il y a une tendance francophone bizarre. J'étais très étonné à la campagne de l'évêque d'Aguewal Mills lorsque j'ai entendu papa Jungwa. Je me suis dit, oh, papa Jungwa a dit à une réunion au PK8, il a dit, certains d'entre nous, si nous étions anglophones, nous voyagerons dans les jets privés. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, donc même les papas savent que nous on est maudits. Mais les papas savent que nous les francophones on est maudits. Yes, parce que la mal est disserrée. Il ne faut pas, Bishop Black dit, démystifier l'onction. Il y a des choses qu'il faut enlever le caractère mystique pour mieux comprendre ça. La malédiction n'est pas une chose mystique. Il y a des malédictions mystiques, mais toutes les malédictions ne sont pas mystiques. Vous comprenez ça? Toutes les malédictions ne sont pas mystiques. Il y a des malédictions qui sont des caractères, des habitudes. Des habitudes. Yes. Et donc, une des choses qu'il faut comprendre, la malédiction, le premier sens d'une malédiction, c'est cerner quelqu'un. Vous avez ça dans le livre de Bishop Black sur neutraliser la malédiction. Comment neutraliser la malédiction? Cerner quelqu'un. C'est-à-dire, une malédiction a pour objectif d'établir autour de toi des limites que tu ne dépasses pas. C'est la première manifestation d'une malédiction. Établir autour de toi des limites que tu ne dois pas dépasser. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La meilleure image que j'utilise souvent pour montrer la malédiction, c'est l'image, la différence entre la pauvreté, le pauvre et le maudit. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas le strict minimum. Le maudit, c'est celui qui a tout ce qu'il faut, mais ne produit rien. Par exemple, l'Afrique, pour ne pas être en général, le Gabon. Le Gabon a le fer, le manganèse, le Gabon a tout ça. Le Gabon est pauvre ou riche? Pauvre. Malgré toutes ses richesses, ce qu'on appelle malédicéré. C'est-à-dire, j'ai ce qu'il faut, mais comme, il y a comme des limites qui m'empêchent l'exploitation de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Mais l'Afrique renferme les plus grands gisements de richesses naturelles du monde. L'Afrique. On est limité, pourquoi? Pourquoi on est... Vous n'avez pas suivi l'intervention du premier ministre à l'Assemblée? Le premier ministre a expliqué ça. Bien, avec les ressources. Si vous êtes en face d'une ressource, vous avez l'investisseur qui arrive, c'est lui qui investit plus que vous. À la fin, au niveau des recettes, il retire plus que vous. Même si la chose est à vous, dès lors où c'est lui qui amène les machines, et c'est lui qui amène l'expertise, et c'est lui qui amène le financement, même si la chose est à vous, c'est lui qui retire plus que vous. Mais qu'est-ce qui vous empêche à vous de vous organiser à ce que votre richesse qui est à vous vous produise plus à vous qu'à l'investisseur? C'est malédicéré. Yes. C'est la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc si on a le même Dieu, la même Bible, le même Saint-Esprit, les mêmes promesses, les anglophones, ça produit, les francophones, nous, l'église est toujours minuscule, c'est qu'il faut revoir. Et on n'est pas, ce n'est pas qu'on est coincé, c'est que on peut changer. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme ça que le chapitre 7 de Romains termine. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? N'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Chapitre 8, il n'y a plus de condamnation. Donc, il a constaté qu'une force à l'intérieur de lui l'imposait à faire le mal qu'il ne voulait pas faire. Il s'est rendu compte qu'il a été vendu au péché et que le bien qu'il a envie de faire, il n'arrive pas à le faire. Coincé complètement. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Tout le monde peut changer quelque chose. C'est qui? Donc, est-ce que le monde francophone est maudit? Oui, le monde francophone est maudit parce que ça se voit en politique, ça se voit dans tous les secteurs, y compris dans le domaine de l'église. Mais est-ce que le monde francophone peut changer? Oui, le monde francophone peut changer. Parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Donc le monde francophone peut changer. Maintenant, il faut maintenant vouloir changer. C'est clair ou c'est pas clair? Yes. Moi, je vous parle des choses réelles et pratiques. Je vois des gens, même sur les réseaux sociaux, même à l'extérieur, il y a des pasteurs même qui me contactent, qui me disent que non, apôtre, oui, ah vraiment, votre ministère me bénit. Le ministère que tu dis que ça te bénit vers l'air là. Mes pasteurs sont en train d'abandonner ça. Ils disent qu'on arrête. C'est pour te dire que même quand tu vois la bénédiction chez quelqu'un, la personne là, elle en est souffre même pour me dire la bénédiction là. Le francophone peut arrêter le mariage qui a tout donné à sa vie. C'est ça, le mariage là qu'il arrête. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aime une autre femme. Je t'ai fait quoi? Rien. C'est, le francophone est comme ça. Le francophone. C'est un truc francophone. C'est francophone. Je vous dis la vérité, c'est francophone. Ma seule chance, c'est que miraculeusement, j'ai été orienté vers un père anglophone. Je crois que j'aurais abandonné le ministère depuis au Gabon. Depuis. Mais ma grâce, c'est que j'ai été connecté. Et donc, ce qui passe dans mon esprit, la fréquence qui passe dans mon esprit n'est pas francophone. La fréquence. Yes. C'est pas francophone. Sinon, il y a longtemps. Un jour, j'ai eu un collectif de responsables qui étaient en voyage ils se sont accordés, comme quand on a tué César. Dit, on va l'arrêter pour lui dire que il va trop vite. Et ce n'est pas bon pour Dieu. Et après, ils ont mandaté un responsable. Vos propres collaborateurs. Ça, c'est les francophones. Et quand j'arrive du voyage, je trouve sur ma table une lettre de mes plus proches collaborateurs qui me font une observation. Tu dures trop dans les réunions. Tu demandes trop d'offrandes. C'est-à-dire des choses que moi je vis, je vois ça ailleurs. J'ai pas d'avis au dépôt. Moi je crois à mes pères plus qu'à mes membres. Moi, mes membres là, ils ne peuvent rien me faire. Rien. Rien me faire. Regardez-moi. J'appelle le papa. Papa, oui, ta branche marche bien. Non, il n'y a pas les gens. C'est toi qu'on envoie venir me mettre la lettre sur mon bureau. Toi dont la branche ne marche pas. Non. Les francophones, ils sont très dangereux. Très dangereux. On m'a dit, parce qu'on m'a dit que tu fréquentes le ministère de Christ ou à Kilomètre. Yeah. Il faut rester connecté à ça. Je te dis, les francophones, non, tu vas mourir. Il vient me déposer une lettre. Aujourd'hui, je parle là. Le responsable qu'on a envoyé déposer la lettre là, il a quitté l'église. Ça veut dire que si je l'avais écouté, je serais où? Je serais où? Si il avait écouté, je serais où? Si je l'avais écouté, je serais où? Je viens de faire une caravane médicale, 19 millions, en un seul dimanche. Si je l'avais écouté, j'envoie les missionnaires, si je l'avais écouté, si vous les écoutez, vous ne deviendrez rien. Je vous dis la vérité, oh. Les chrétiens, même du Gabon, là, vous les écoutez, vous ne serez rien. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce qu'ils n'ont rien fait, mais ils veulent vous conseiller. Est-ce que vous m'entendez bien? Ils n'ont même pas la cheville de ceux dont ils veulent vous conseiller. Mais ils veulent vous conseiller. Et ce que moi j'ai appris avec l'évêque d'Ag et Wadmil, c'est que à chaque fois que quelqu'un critique ton ministère, donne-lui une portion de ton ministère afin qu'il découvre ce que tu portes. Et donc je fais quoi avec mes membres là? Je donne à tous des branches, à tous des familles, à tous. Et eux-mêmes découvrent que donne à quelqu'un qui trouve que oh non vraiment on est trop fatigué, l'église est trop. Donne-lui une branche, tu vas voir. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est pourquoi je sais, j'ai des fois dans le temps, on a toujours des membres qui contestent, des membres qui partent, même les gens qui sont partis là, ils ont allé commencer des églises. Je suis sûr que dans leur église de malédiction, ils ont découvert que, donc c'est difficile comme ça. Ils ont découvert que c'est difficile. Je connais plusieurs, ils ont commencé, ils ont fermé. Ils ne font plus rien. Tu vois, tu as critiqué quelqu'un, tu as critiqué ce que tu ne connaissais pas. Tu as critiqué ce que tu n'es pas capable de faire. Tu as critiqué ce dont tu n'es pas digne de commencer. Tu as critiqué ce dont tu peux seulement parler, mais tu ne peux pas faire. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Yes. Yes. Oh yes. Vous êtes avec moi? Donc je vous invite à venir à la prière. Vous allez voir comment la prière transporte le ministère. Yes. Si vous venez à cette prière, ne venez pas à 8h, venez à 6h. Parce que je ferme le portail. Yes. Alléluia. Ça c'est une grâce qu'on veut accorder à la CPN, de prier avec les pasteurs pour leur ministère. C'est la nouvelle année, peut-être qu'il faut accepter de voir le côté spirituel de l'église. Oh yes. C'est ça, c'est Actes chapitre 9, verset Actes 9, 31. Donc, pasteur, j'étais en train de prier pour chacun d'entre nous aujourd'hui et j'ai vu une image forte. L'image forte que j'ai vue, c'est que Dieu m'a dit dans mon cœur, il m'a dit, sache que en parlant sincèrement à ces hommes de Dieu, tu parles sincèrement à leurs chrétiens. Dieu m'a dit, en parlant à ces gens-là, sache que tu parles à leurs chrétiens. C'est pourquoi parle avec autorité afin qu'ils exercent de l'autorité sur leurs chrétiens. Yes. En vous parlant, je parle à 100 personnes, à 200 personnes. Yes. Yes. C'est pourquoi je ne suis pas censé mettre les gants.
Yes.
Parce que les chrétiens gabonais et francophones sont malades. Malades. Yes. Malades. Voyez comment les anglophones accompagnent quelqu'un. Tu as vu le hein? Comment ça, ils appellent encore le collaborateur proche de Christ de la Kilomé là? Tom, tu as vu des années. C'est toujours lui qui est introduit. Toujours lui. Depuis des années. Qui a commencé son église depuis 30 ans ici. 30 ans. On parle encore, il n'y a personne ici qui a commencé l'église depuis 30 ans. 30 ans. Plus de 30 ans. C'est toujours lui qui introduit. Pourquoi? C'est déjà. Hein? Les gars là, ils ont pitié de nous. Quand ils nous voient comme des sous-hommes. Regarde comment. Depuis des années. Des années. Ils font la même chose, la puissance. Nous, essaye, tu vas voir. À la quatrième année, même ta femme veut te quitter à cause de l'église. Même ta propre femme, elle ne croit plus en toi. On a un truc là, bizarre, je ne sais pas. On a un truc là. Je ne sais pas si ça, ça vient, ce truc-là. Vous voyez, par exemple, un chrétien de 3 ans, il est fatigué comme s'il ne peut plus servir Dieu. Comme s'il a fait 70 ans de service pour le Seigneur. Vous sentez bien comment il est fatigué. Il est fatigué. Vraiment, il a beaucoup servi Dieu. Il a beaucoup servi Dieu. Mon fils, je te maudis à mort. Je maudis tes enfants. Je vous maudis ceux qui sont cachés. Ceux qui sont cachés en France. Vous tous, je vous maudis. Ça me dit, je vais vous expliquer à quoi nous sert la prière. Elle ne nous sert pas seulement à parler à Dieu. Elle nous sert aussi à parler à Satan et aux hommes. Yes. C'est clair dans la Bible. Elle nous sert aussi à parler à Satan. La prière nous sert à parler à Satan et à parler aux hommes. Yes. Paul dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Mais celui qui parle avec son intelligence édifie l'homme. La prière, hein, il parle de la prière. La prière. Ils sont de foi infidèles, se transforment en agents du diable. On dit infidèle. Satan était le fidèle de Dieu, non? Est-ce que Satan, Lucifer n'était pas le fidèle de Dieu? Il ne s'est pas transformé en diable. Judas n'était pas le fidèle de Jésus. Il ne s'est pas transformé en diable. Géasi n'est pas le fidèle d'Élisée, il ne s'est pas transformé en diable. C'est un fidèle qui se transforme en diable. Un fidèle qui se transforme en diable. Je ne comprends pas pourquoi au Gabon on ne maudit pas les gens dans l'église. Alors que dans toute la Bible, on maudit les gens. Dans toute la Bible, on maudit les gens. Bien. Il y a un frère qui s'appelait frère Bar Jésus ou quoi. Hein? L'apôtre a dit, tes yeux ne verront plus le soleil. Tes yeux ne verront plus le soleil. Un chantre ne vient plus à l'église pour diriger l'église. Il ne vient plus. À cause de lui, l'écule ne marche plus bien. Mon fils approche. Mon fils, mets-toi à genoux. Il se met à genoux. Il faut fermer le soleil. C'est un sataniste. C'est un sataniste. Qui a tué Ananias et Saphira? C'est Pierre. C'est Pierre qui a dit, Quand Pierre a tué Ananias, tu as dit Ananias, Ananias, tu me prends pour qui? Tu crois que c'est à moi que tu as menti? Il est mort. Avec ses sur place. Quand quelqu'un meurt comme ça, est-ce qu'il n'y a pas du bruit, tout ça? Pierre a dit, hey, sa femme n'est pas encore là. Tout le monde s'est tué comme s'il n'y avait rien. On a pris le corps, on a vite allé enterrer. Quand Saphira revenait, pourquoi les autres frères n'ont pas dit, oh, Saphira, ton frère, ton mari est mort? Ils ont reçu l'or que celui qui parle, tant pis. Hein. Laissez. Elle est venue tranquillement comme s'il n'y avait rien. Déjà était le petit là jouer le piano comme il est en train de jouer là. Déjà était là, assis. La queue l'a reçu à la porte. Pierre a dit, Saphira, ça va ma fille? Il ne va pas savoir. Dis-moi. Pierre n'a pas dit, ton mari est mort, vous avez menti. Non, il n'a pas dit ça. Il a fait comme s'il n'y avait rien. Et aucun membre de la sécurité n'a averti Saphira. Ma fille, ça va, oui. Dis-moi, le terrain, vous avez vendu ça à combien? Vous voyez comment ça se passe? Ils doivent découvrir que dans un homme de Dieu, Dieu n'a pas investi que la bénédiction. Dieu a aussi investi le droit de maudire. Les deux choses sont à l'intérieur. Il dit, je mets devant toi quoi? Le même Dieu. C'est le même Dieu qui fait ça. C'est pourquoi vous avez vu Moïse ouvrir le sol. Moïse dit, si je suis un homme de Dieu, qu'il ne meurt pas d'une mort normale. Il demande à tout le peuple, éloignez-vous d'eux. C'est le Coran et la Bible. C'est la Bible. La terre s'ouvre. Les familles descendent, la terre se referme. Le même Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, vous pouvez vous montrer dimanche, samedi, venez voir comment vous montrer comment maudit les fidèles. Yes. Parce que vous devez savoir que dans le monde anglophone, la dévotion des fidèles est due au fait qu'ils aiment Dieu, mais aussi qu'ils le craignent. Je ne sais pas si vous comprenez. Par contre, dans le monde francophone, les gens ne craignent ni papa, ni maman, ni qui que ce soit, même pas Dieu. Quand vous lisez le chapitre 5 de Actes des Apôtres, après la mort d'Ananias et Saphira, on vous dit quoi? La crainte s'empara de l'église. Le monde francophone est un monde où ils ont un mépris pour Dieu comme vous ne l'imaginez pas. Et si vous ne savez pas le faire, si vous ne comprenez pas que le monde francophone méprise Dieu, y compris les fidèles, vous perdrez le ministère. Le monde francophone méprise Dieu, méprise les autorités. Le monde francophone ne croit pas à la malédiction, seulement dans le monde mystique. Les francophones ne croient à la malédiction que quand ça vient du monde des sorciers. Ils ne croient pas à la malédiction de l'église. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Yes. Donc il faut être un homme de Dieu équilibré. De même que vous pouvez bénir, de même vous devez être capable d'établir la crainte de Dieu dans la chose de Dieu. Sinon vous allez voir, ils vont détruire votre ministère. C'est la vérité. Yes. Moi-même, j'étais un fidèle francophone. Avant que je ne connaisse toutes ces lois-là, un jour, j'ai pris tous les jeunes de l'église. J'étais un fidèle. Les jeunes de l'église, on quitte l'église. Notre but, changer le pasteur. Les francophones, nous, on est sauvages dans l'âme. J'ai pris 200 jeunes de l'église. Je suis parti avec eux, à côté de l'église, au fond. Ils disent, on ne va plus à l'église. Je suis le responsable des jeunes. Pasteur, les responsables sont venus. Ah, mais comment, Olivier, toi aussi, c'est quoi? J'ai dit, le pasteur, là, on l'enlève. J'ai dit aux Coréens, on enlève le pasteur là. On a enlevé le pasteur. Les francophones peuvent vous faire coup d'état dans votre propre église. Francophones que vous voyez là. Les gens que j'ai ramassés, païens, fumeurs de chambre, buveurs, ont failli me faire coup d'état dans Vélaire. J'ai chassé 200 personnes. 200. Mais je l'ai fait, j'avais rencontré l'évêque d'Agde. Si je n'avais pas rencontré l'évêque d'Agde, je n'aurais pas eu cette force. Donc à chaque fois, votre ministère aura un rendez-vous avec un genre de démon qui tombe sur vos membres. Si vous ne savez pas vous battre contre l'arrivée des nouveaux démons, votre ministère va tomber. Là, je suis attaqué par des nouveaux démons depuis un bon bout de temps. Et je compte relever ce défi comme les premières fois. Yes. Yes. Vous savez, j'ai suivi. Moi, je ne suis pas les films sénégalais. Yes. Je ne suis que des films d'action américains. Seulement. Seulement. Je sais que si je chasse tous mes délégués, les pasteurs qui sont devant vont se mettre en l'ordre. Et s'il faut le faire, je le ferai, je vous fais la promesse. Parce que il faut, l'église c'est comme une armée. Il faut que les gens sachent que le commandement est divin. Si vous sentez que l'église ne marche pas, chassez vos collaborateurs, les premiers. Les autres qui sont derrière vont comprendre que là il est sincère. Et quand je dis chasser, c'est chasser. Chasser. Donc enseigner, prêcher. Enseigner, prier. Enseigner, prêcher. Ça ne marche pas. Changer. La force d'un leadership, c'est d'amener des grands changements. Le leadership, Michel Dan vous le dit, la force du leadership, c'est d'amener un grand changement. Yes. Une chose qui n'avance pas, c'est qu'un changement doit apparaître. Vous priez, ça ne change pas. Vous prêchez, ça ne change pas. Vous interpellez, ça ne change pas. Allez, créez un changement. Un changement stick fort. Vous allez voir. Et je voulais avertir les gens, je fais un bonus. Les personnes qui sont en train de préparer à chasser ici, ce sont les assistants délégués. Sauf Papa Denis. Yes. Avant 2024, si ça ne change pas, tout ce que je dis, je chasse tous les assistants délégués de l'église. C'est comme ça que ça se passe. Vous prêchez, vous enseignez, vous prêchez, vous enseignez, ça ne change pas. C'est qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Dans le monde invisible, quelque chose vous bloque. Produisez un fort changement. Cassez le système de Satan par là où il ne s'attend pas. Vous allez voir comment ça bouge. C'est comme ça que ça se passe. Là, je viens de libérer quelque chose que je prépare en ce moment. Oh yes. L'église ne grandit que si vous ne respectez que les lois. Satan est un être très dangereux. Il ne faut jamais l'affronter sans devenir dangereux. Jamais. Amen. J'ai chassé 200 personnes. Mon église est quittée de 500 membres, etc., à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je sais que dans la guerre, un des grands atouts de la guerre, c'est l'effet de surprise. Il faut toujours savoir qu'à un moment, il faut créer l'effet de surprise. Yes. Marie Beauchamp. Ok. Rentrons dans le livre. Alléluia. Pasteur, je vous le dis parce que pendant que je priais, toutes ces choses, Dieu m'a dit de vous, en vous parlant, ça, je parle à beaucoup d'autres personnes derrière vous. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens derrière vous. Le monde francophone est un monde très dangereux et ça tue les ministères et les églises. Oh yes. Alors, ce livre est un livre qui est une suite logique du livre de, comment on appelle ça, Anakazo. Nous aimons ce livre et nous l'utilisons. C'est le livre « Naître de nouveau et éviter d'aller en enfer ». Ce livre, on va essayer de le lire rapidement. Rapidement, pourquoi ? Parce qu'il y a des repères si importants. Le but de cette lecture est de montrer en réalité que le fondement de tout, c'est la nouvelle naissance. Si on fait l'église et qu'on ne peut pas avoir des gens nés de nouveau, on n'appelle pas ça l'église.
Yes.
Est-ce que vous comprenez ? Pas la plupart. Tout ce qu'on veut réaliser n'est réalisable que par ceux qui sont nés de nouveau. Écoutez, je vais répéter. Tout ce qu'on veut réaliser en Christ n'est réalisable que par ceux qui sont nés de nouveau. Si les gens ne sont pas nés de nouveau, écoutez, si les gens ne sont pas nés de nouveau, vous allez croire que c'est le diable qui vous attaque, alors que ce n'est pas le diable, les gens ne sont pas nés de nouveau.
Wow.
Quand nous ne sommes pas nés de nouveau, vous pouvez croire que vous êtes maudit, alors que vous n'êtes pas maudit, les gens ne sont pas nés de nouveau. Donc, quand la nouvelle naissance n'est pas là, tout peut prendre des formes diverses et vous embrouiller, alors que c'est seulement que les gens ne sont pas nés de nouveau. Alors, ce que je touche maintenant, normalement, concerne tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans la constitution d'une église, les statuts d'une église, quand le ministère de l'Intérieur vous accepte en tant qu'église, en réalité, vous dites au ministère de l'Intérieur que vous prêchez l'évangile.
Oui, yes.
C'est ça, normalement. Votre pensée, c'est que vous prêchez l'évangile. Et donc, le ministère de l'Intérieur vous reconnaît comme étant une association religieuse qui fait quoi? La promotion de l'évangile. Ça veut dire que si à la fin, et ça c'est le problème qu'on trouve dans beaucoup d'églises maintenant aujourd'hui, si à la fin, au lieu de prêcher l'évangile, vous faites du commerce, vous n'êtes donc pas une église. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi beaucoup d'églises se sont transformées en banja, en lieu de sorcellerie,
yes.
En lieu... Vous prêchez l'évangile ou bien vous êtes un occultiste. Vous êtes qui? La chose que vous faites là, c'est l'église ou bien une secte? Pourquoi vous allez amener, les gens vont commencer à boire, faire les bains, les sauts, tout ça là?
Wow.
C'est l'église que vous prêchez, vous faites, ou bien c'est, vous êtes un traduit praticien.
Wow.
Et à un moment avec les églises de réveil, on ne sait plus si on a affaire à des pasteurs ou bien à des traduits praticiens.
Amen.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, le livre que nous allons aborder, il est au fond, au cœur même de l'activité de l'église. Le livre là, au cœur même de l'activité de l'église. Normalement, un homme de Dieu sauve les gens. De quoi? Du péché et de l'enfer.
Yes.
Par quoi? La nouvelle naissance.
Amen.
Avant tout ce qu'on peut dire là, le vrai travail d'un homme de Dieu, c'est de sortir les gens du péché pour qu'ils n'aillent pas en
enfer.
C'est ça. Et donc, il leur présente Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous sauve du péché pour qu'on n'aille pas en enfer. Vous n'avez peut-être pas jamais fait attention à cela, mais Jean dit ça clairement. Je crois que c'est 1 Jean chapitre 3, non? Où Jean dit clairement, Jésus est venu, pourquoi? Ôter le péché. Après, continue en disant, il est apparu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. D'abord, ôter le péché. Dans le même chapitre, d'abord, ôter le péché. Je crois que c'est le verset 3 ou le verset 5. Ôter le péché. Hein, Jean?
Yes.
3, 8. Il est venu d'abord ôter le péché. Après, il est venu détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas d'abord venu détruire les œuvres du diable. C'est là où beaucoup de ministères se trompent.
Yes.
C'est pourquoi les gens ne convertissent pas les gens et ils font la délivrance.
Sure.
Ils ne convertissent pas les gens et ils font les travaux spirituels.
Wow.
Ils ne convertissent pas les gens et ils font... Non, Jésus n'est pas venu détruire les œuvres du diable. Il est d'abord venu ôter le péché.
Deuxième,
détruire les œuvres du diable.
Oh yes.
Oh yes.
Magnifique.
Si tu ne respectes pas les deux versets, parce que en regardant le verset quoi? C'est le verset 10 qui parle maintenant de quoi? Détruire les œuvres du diable ou bien le verset détruire les œuvres du diable, c'est où?
Détruire les œuvres du diable.
Il y a d'abord aussi le péché. C'est verset quoi? 5, 3, quoi?
Verset 5.
Verset 5 dit quoi?
Or vous le savez.
Écoutez.
Jésus a paru pour ôter les péchés.
Donc c'est d'abord ça, verset 5. Ôter les péchés. Maintenant verset 8.
Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire.
Il utilise le même langage. Premier langage, ôter le péché. Deuxième langage, détruire les œuvres du diable.
Oh.
Il est venu pour ôter le péché. Verset 5, il est venu, verset 8, pour détruire les œuvres du diable. Ne renversez pas l'ordre. Si vous renversez l'ordre, vous allez commencer à faire des délivrances à des gens qui ne sont pas convertis.
Choc. Oh yes.
C'est ce que les églises. C'est pourquoi on a un problème avec la théologie des églises de réveil.
Yes.
Les églises de réveil ne respectent pas la théologie biblique. Les églises de réveil, ils ne respectent pas la théologie biblique. Vous commencez à amener le sel parce que Élisée avait. Mais quel est le lien entre Élisée, le sel? C'est quoi l'affaire là? Vous êtes des traduits praticiens ou bien vous êtes des prédicateurs de l'évangile?
Man.
Vous êtes quoi?
Wow.
Vous êtes un ganga ou bien vous êtes des prédicateurs de l'évangile.
Oh yes.
Yeah. Donc, la nouvelle naissance était sujet ultime. C'est peut-être le sujet le plus important de la Bible. Parce que sans nouvelle naissance, il n'y a pas de salut et d'éternité. Sans la nouvelle naissance. Mesdames et messieurs, j'ai bien peur de vous informer qu'il y a beaucoup d'églises qui ne connaissent pas la nouvelle naissance et qui ne prêchent pas la nouvelle naissance.
Non, non. Yes.
Qui ne prêche pas la nouvelle naissance? Qui ne croit pas la nouvelle naissance? Qui ne prêche pas la nouvelle naissance? Et donc, tout le ministère est fondé sur les rêves, les songes, les visions, les travaux spirituels, la délivrance, les prophéties. Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'est pas... Mais ces choses-là sont importantes. Juste que ces choses-là ne sont pas le début.
Yes.
Ces choses-là sont importantes. Ces choses-là ne sont pas le début. Vous ne pouvez pas donner le nom à un enfant qui n'est pas né. Vous ne pouvez pas prévoir l'école d'un enfant qui n'est pas né. Vous payez les fournitures, tout. L'enfant n'est pas né, l'enfant n'existe même pas. La délivrance, c'est pour quelqu'un. Il est chrétien. Maintenant, on brise toute autre influence.
Oh yes.
Mais comment on peut chasser les démons de quelqu'un qui n'est pas converti? Jésus dit dans Matthieu 12 quoi? Le démon fait quoi? Il sort. N'est-ce pas? Après, il fait quoi? Il revient. Voyons que l'endroit est vide. Il va chercher. Quand vous entendez que l'apôtre Georges Olivier avant était un monsieur bizarre, c'est parce que quand il s'est sorti de l'école. Non.
Oh, yes.
J'ai dit, mais pourquoi les pasteurs chassent les démons aux gens qui ne sont pas convertis? J'ai développé de ces trucs bizarres là. Je n'étais pas encore bien. Moi-même aussi, je n'étais pas chrétien.
Oh yes.
J'ai commencé à poursuivre les gens parce que ça me traumatisait. Il y a une théologie. La Bible a une théologie.
Yes.
La Bible a une théologie. Théos logos, l'étude de Dieu. La Bible a une théologie. On est sauvé parce que on est né de nouveau, ou bien on est sauvé parce qu'on est délivré. Mais on peut être délivré des démons et toujours dans ses péchés. On va en enfer. C'est ça ou c'est pas ça? Yeah. Et Jésus explique que le démon part, il prend, n'est-ce pas, 8 autres démons, il revient. C'est ce que Jésus explique. Alléluia. Alors prenons le chapitre 2. Ne soyez pas surpris que vous deviez naître de nouveau. Naître de nouveau.
Yes.
Ce livre-là, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce livre-là, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous en supplie, allez-y le lire. Et il est numérique pour ceux qui ne l'ont pas physiquement. On peut vous l'envoyer dans le groupe. Il est déjà dans le groupe d'ailleurs. Ça a déjà été envoyé dans le groupe. Il faut que vous puissiez le lire. Ce livre-là, vous devez le lire pas pour les autres d'abord. Lisez-le pour vous-même.
Yes.
Je vous en supplie. Parce que on peut diriger l'église et on n'est pas né de nouveau.
Yes.
Oui, on peut accéder à tous les niveaux de leadership de l'église et on n'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance est une expérience extraordinaire que Jésus a été le seul à expliquer. Avant Jésus, personne n'a expliqué la nouvelle naissance. Personne. Abraham, Isaac, personne n'a expliqué la nouvelle naissance. Seulement Jésus est venu expliquer la nouvelle naissance. Et vous savez à qui il a expliqué? Jésus a expliqué la nouvelle naissance à des personnes qui connaissaient la Bible, qui priaient et qui dirigeaient l'église. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Comme pour montrer à ces religieux que, attention, on peut avoir accédé à tous les niveaux comme Nicodème, alors qu'on n'est pas né de nouveau. Yes.
Oh yes.
Et je pense que un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau dans l'église. Et nous avons dans nos églises des gens qui ont accédé à des niveaux de responsabilité les plus importants, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Regardons ce que c'est la nouvelle naissance. Alors, le premier principe qu'on va découvrir dans la nouvelle naissance, c'est que Bishop Black va nous amener dans un... Il va nous amener dans un voyage où il va d'abord nous montrer ce que être net de nouveau n'est pas. Et c'est ce qui est intéressant.
Yes.
Vous êtes avec moi?
Yes.
Alors, à la page quoi? Nous sommes à la page quoi? 12. À la page 12 déjà, c'est un essai de sa conversation avec Nicodème. Allons-y.
Il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le commentaire. Dans ce passage, Jésus eut une discussion avec un homme du nom de Nicodème. Jésus était à la maison une nuit quand Nicodème vint à lui. Nicodème était un personnage très important dans la ville.
Yes.
La Bible dit que c'était un des chefs des Juifs, un docteur d'Israël, un chef dans les synagogues. Nicodème est allé voir Jésus durant la nuit, de sorte que toutes les personnes qui le respectaient ne puissent le voir. Cet éminent chef juif dit quelque chose à Jésus qui l'incita à donner une réponse intéressante. Nicodème a dit à Jésus qu'il reconnaissait en lui un grand homme de Dieu.
Yes.
Jésus vit à travers lui et répondit: tu dois naître de nouveau. Tu es bon. Je sais que tu payes la dîme, que tu jeûnes souvent, que tu es pharisien et un chef des Juifs. Mais tu dois aussi naître de nouveau.
Le pharisianisme est la secte juive la plus radicale dans l'histoire.
Oui.
Ça veut dire, chez les Juifs, il y avait des tendances, comme il y a des tendances dans le christianisme. Chez les Juifs, il y avait des tendances, comme il y a des tendances dans l'islam. Vous savez que dans l'islam, il y a des tendances, non?
Oh, yes.
Hein? Yes. Il y a des extrémistes, hein?
Yes.
Dans l'islam. Yes. Et chez les Juifs aussi, c'est la même chose. Dans le judaïsme aussi, il y avait des tendances. Parmi les tendances, la tendance la plus radicale, la tendance qui demandait aux gens de vivre selon les textes de la Torah, ce sont les pharisiens. Est-ce que vous comprenez? Et Nicodème fait partie de cette tendance. Donc, de ceux qui, on doit faire comme les textes disent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ici, Bishop Dahl montre que Nicodème était certainement baptisé, certainement il respectait tout ce qu'un pharisien respecte. Mais Jésus, malgré tout ce que Nicodème respectait, lui a dit: tu dois naître de nouveau.
Oh.
Et Jésus est en train de parler là à un chef de la tendance la plus radicale. Vous savez que ce ne sont pas les gens qui ont tué Jésus, ce sont eux, non?
Yes.
Hein? Ce sont eux qui ont dit non. Il fout le pied trop de principes. Le sabbat, il se déplace, il guérit les gens, il demande aux gens de transporter les... C'est-à-dire, ils se rendent compte que Jésus, pour eux, Jésus était un imposteur, n'est-ce pas? Qui allait à l'encontre des lois strictes de la Torah.
Yes.
Donc ils ont tué Jésus en croyant qu'ils obéissaient à Dieu. Hein? Les souverains facteurs, ils ont tué Jésus en croyant qu'ils obéissaient à Dieu.
Yes.
C'est pourquoi Nicodème vient la nuit. Nicodème vient la nuit parce qu'il ne peut pas venir en journée. Il appartient à la tendance la plus radicale parmi les Juifs. Je ne sais pas si vous me suivez comment ça se passe. Mais c'est à cette personne-là, à ce personnage-là, d'une tendance radicale, que Jésus dit: il te faut naître de nouveau. Au mépris de tout ce que Nicodème respectait en tant que pharisien.
Wow.
Donc, il ne faut pas croire que la nouvelle naissance, c'est tout ce qu'on fait là. Tu peux faire toutes ces choses-là. Et la seule raison pour laquelle je sais que je suis né de nouveau, c'est parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur comme sauveur et Seigneur personnel par une repentance profonde ayant peur de l'enfer.
Amen.
Je ne suis pas né de nouveau parce que je suis apôtre, parce que je prêche. Non, tu peux faire tout ça là sans être né de nouveau.
Amen.
Tu peux faire tout ça. Et une raison pour laquelle je sais que je suis né de nouveau, vous savez, un jour quand je suis venu à l'église, le pasteur prêchait en semaine. Du coup, ça devait être un mardi ou un mercredi, le pasteur, l'évangéliste prêchait. Il a demandé qui est né de nouveau. Et les gens se sont levés. Parmi lesquels moi, j'avais 15 ans. Il s'est dit, tu es né de nouveau, oui. Tu as fait quoi pour naître de nouveau? À chaque fois que vous voulez savoir que quelqu'un est de nouveau, demandez-lui, tu as fait quoi pour naître de nouveau? Il doit vous expliquer. Vous serez étonné.
Oh yes.
Même si je fais ça là, vous serez étonné. Parce que naître de nouveau ne se fait que d'une seule manière. Mais toutes les autres manières sont fausses.
Yes.
Et si on vous fait l'interrogatoire là, vous allez découvrir là que tu n'es jamais né de nouveau.
Yes.
Naître de nouveau ne se fait pas quatre fois, de trois manières. Ça ne se fait que d'une seule manière.
Yes.
Et à chaque fois, j'ai voyagé, je suis allé dans le monde. Même dans l'avion, quelqu'un, vous êtes chrétien, lui, il dit, je suis prophète, vous êtes né de nouveau? Il me dit, bien sûr. J'ai dit, ok, vous avez fait quoi pour naître de nouveau? C'est une question méprisable. On dit, quelqu'un croit qu'il connaît. Il vous dit, mais non, je suis né de nouveau, je vous dis. Vous avez fait quoi pour naître de nouveau? Il dit, je suis venu à l'église, on m'a délivré. Je buvais beaucoup, là, c'est pas naître de nouveau. Et si vous posez des questions, vous allez voir qu'ils vont vous donner des réponses qui sont tout, sauf naître de nouveau. Et moi, j'ai été sauvé comme ça au début de l'église. Il a demandé, qu'est-ce que tu as fait pour naître de nouveau? J'ai dit, je suis venu à l'église, après un message, on a demandé au nouveau de rester, je suis resté, on m'a entretenu, après, donc depuis je suis chrétien. Il m'a dit, tu n'es pas né de nouveau. Les nouveaux sont arrivés, on demande aux nouveaux de rester, on fait un entretien avec les nouveaux, ils viennent aux réunions de suivi, ils croient qu'il est né de nouveau. Il n'est pas, c'est pas ça naître de nouveau.
Oh yes.
Et les gens ont beaucoup d'expérience où ils croient que c'est ça naître de nouveau. Non, 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 ce n'est pas ça naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça?
Yes.
Je ne vous dis pas. Pour que ceux qui ne sont pas nés de nouveau apprennent à travers le livre ce que c'est naître de nouveau.
Amen.
Mais je peux vous rassurer, on peut être pasteur, on peut être homme de Dieu comme Nicodème et on n'est pas né de nouveau.
Yes.
C'est clair?
Yes.
Alléluia.
Amen.
Je voudrais dire à tous ceux dont le caractère est plus fort que les versets bibliques, vous n'êtes pas né de nouveau.
Tous ceux
qui sont nés de nouveau, la Bible casse. Même ceux que tu résistes, elle casse.
Amen.
Parce qu'en vérité, la nouvelle naissance, c'est que la parole est allée se planter à l'intérieur de toi. Elle a créé ce qu'on appelle une régénération. La nouvelle naissance ne se fait que par le texte. C'est pourquoi, même si tu es fâché, dès qu'on cite le texte qui est contre ton attitude, tu casses.
Amen.
Si ton caractère résiste au texte, tu n'es pas né de nouveau. Fais attention, hein.
Oh, yes.
Tu peux aller en enfer si tu crois que tu es né de nouveau. Yes. C'est pourquoi Jacques dit, obéissez à la parole qui a été plantée. N'est-ce pas? Plantée à l'intérieur de vous pour sauver vos âmes. Donc, les gens qui sont nés de nouveau ont une seule faiblesse. Les versets, les textes.
Oh,
dès qu'ils sont en face de la vérité biblique, dès que vous citez, même s'ils voulaient, ils lâchent. Parce que ils sont nés par la parole et seule la parole a le dessus sur eux.
Amen.
Ne bougez pas la tête, vous bougez la tête. Ne bougez pas la tête, vous bougez la tête. J'ai dit, tes habitudes qui durent là, tu n'es pas né de nouveau. C'est ce que j'ai envie de te dire. On presse, on monte même le verset. Tu es toujours là comme ça. Tu dis, tu n'es pas né de nouveau.
Sure.
Tu n'es pas né de nouveau. Si tu étais né de nouveau, la parole. Parce que la Bible, c'est la grosse parole. Et à l'intérieur de toi, il y a une portion de la Bible. C'est la Bible qui a été prêchée pour que tu sois né de nouveau. C'est une partie de la Bible qui est à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. À l'intérieur de toi, la parole qui t'a converti, c'est la Bible, c'est une partie de la Bible qui t'a converti. Donc, à chaque fois qu'on approche de toi, la parole qui t'a converti s'identifie à elle. S'identifie à elle. C'est pourquoi Moi, je vous dis, quand vous le passez, quand vous le savez, vous allez aller loin avec le ministère. Là, les gens qui sont nés de nouveau, vous pouvez en faire de ce que vous voulez en Christ. Les amener aussi haut que possible. Parce qu'ils sont nés de nouveau. À chaque fois que Dieu vous révèle les versets, ils montent. Dès que vous leur prêchez, même s'ils ne voulaient pas faire, dès qu'ils sont en face de la parole, ils montent.
Oh yes.
Vous comprenez? Parce qu'en vérité, vous avez en votre main ce qui les a donné la naissance. Par contre, quand ils ne sont pas nés de nouveau, même si vous l'utilisez, la Bible, vous sentez le blocage. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau.
Oh yes.
Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc même si tu utilises les versets, tu dis, c'est, tu sens bien comment ça bloque. Parce que la personne n'est pas née de nouveau. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Yes.
La Bible est une épée à quoi? Double tranchant, plus efficace. Elle fait quoi? Elle sépare je, tu et moi, âme et esprit. Elle rentre dans les pensées, les sentiments du cœur. Nul, quoi, n'est caché devant elle. Dès que, allez, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux être la femme la plus dure, l'homme le plus dur, le gars le plus têtu. Dès que tu es né de nouveau, dès qu'on te présente la Bible, le texte, la force qui sort de la Bible te brise. Parce qu'en vérité, tu es né d'elle.
Oh,
elle a autorité sur toi. C'est pourquoi je ne conseille jamais un couple qui n'est pas né de nouveau. Jamais. Jamais. Je ne peux pas. Vous allez les amener où? Vous allez amener deux personnes qui dorment ensemble, qui ne s'entendent pas où? C'est toi qui vas venir régler ça. Deux personnes qui dorment ensemble, qui ne sont pas nées de nouveau. Même si tu crois que tu as réglé, quand tu passes, ça recommence derrière toi. Mais quand ils sont nés de nouveau, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup. Tu viens seulement. Tu dis seulement, non, parce que quand il a fait ça, il m'a, et puis ensuite il m'a insulté. Frère, tu insultes ta femme, alors que la Bible dit, non. Et toi, non, c'est parce que elle m'a manqué de respect. Oh, mais il est écrit que tu es soumis à ton mari, non. Tu sais seulement les versets. Après, demandez-vous pardon, il se demande pardon, problème terminé. C'est-à-dire, les problèmes de couple chrétien né de nouveau sont bien plus faciles que ce que vous imaginez. Quand le couple a des problèmes qui ne terminent pas, il n'y a qu'une seule cause. Ou ils ne sont pas nés de nouveau, ou bien l'un n'est pas né de nouveau.
Yes.
C'est pas, la vie chrétienne n'est pas aussi difficile qu'on l'imagine. C'est la nouvelle, tout dépend de la nouvelle naissance. Suivez-moi bien. Je ne vous parle pas de perfection. Je vous parle de l'influence de la parole sur la parole. Je suis en train de vous dire que quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il ne veut pas, il fait parce que c'est la Bible qui dit.
Yes.
C'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Je ne vous dis pas qu'il est parfait. Je vous explique que quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il ne veut pas faire, mais parce que ce que vous dites vient de la Bible, il fait.
Oh yes.
C'est clair ou c'est pas clair? Mais si vous voyez que vous citez la Bible, la personne ne fait pas, dans votre cœur, cette personne n'est pas née de nouveau. Vous devez retirer rapidement. C'est clair ou c'est pas clair?
Yeah.
Oh yes. Bishop David a posé la question un jour à l'archevêque Duncan Williams que si ton père Idaosa était là, est-ce que tu aurais divorcé avec ta première femme? Et Duncan Williams a répondu non, je n'aurais pas divorcé. Et Bishop David lui a dit ça se serait passé comment? Et Duncan Williams lui a dit si mon père Idaosa était là au moment où j'avais tous ces problèmes et on a divorcé avec ma femme, si mon père était là, il m'aurait seulement dit ça. Il m'aurait seulement dit ne continue pas ce problème, on en reparlera. Et donc quand William dit, quand il aurait dit ça, j'aurais fait comme il a dit et il ne serait plus jamais revenu sur le sujet. Parce que la notion d'écouter son père, qui est dans la parole de Dieu, aurait dominé toutes les raisons qu'il avait. Il aurait attendu que son père revienne sur le sujet. Et puisqu'il connaît son père ne reviendrait plus jamais sur le sujet. Il n'aurait jamais divorcé. Donc, les textes de la Bible travaillent dans l'individu qui est né de nouveau au point où vous pouvez le guider par la Bible. Parce qu'il est né de nouveau. Il s'agit de la parole qui parle à la parole.
Yes.
Ne perdez jamais le temps avec ce qu'ils ont parlé de nouveau à vouloir les arranger. Convertissez-les. Demandez-leur de fermer les yeux et de recevoir Jésus-Christ. Parce que la parole parle à la parole. Alléluia.
Amen.
Yes. La Bible dit qu'une femme mariée appelle son mari comment? Comme Sarah appelait. Alors, si ta femme t'appelle Pichou, tu dis arrête. Elle dit, tu vas me faire quoi? Ça, tu n'as, là, elle n'est pas convertie. Ce n'est pas une femme née de nouveau. Élisée appelait Élie comment? Mon père, non? Yes. Tout collaborateur qui ne peut pas t'appeler papa n'est pas né de nouveau.
Amen.
Dans les textes, plusieurs collaborateurs dans la Bible appellent l'homme de Dieu papa. Mon père. Faut pas perdre du temps avec ça. Beaucoup de vos membres sont plus nés de nouveau que vos collaborateurs. Regardez bien. Beaucoup de vos nouveaux membres sont nés de nouveau. Quand tu regardes les deux attitudes, le nouveau est né de nouveau par rapport aux collaborateurs. Regardez bien, vous allez voir. Né de nouveau, c'est né de nouveau. Hein. Ce n'est pas une chose autre. C'est pourquoi on dit, peu importe les jeunes de Nicodème, tout ça, je te dis que tu dois naître de nouveau. On y va.
Or, les questions que nous devons nous poser sont les suivantes. Pourquoi Jésus dit-il à Nicodème qu'il devait naître de nouveau? Pourquoi s'est-il lancé dans ce sermon? Le verbe naître signifie être produit ou créé.
Écoutez, ça c'est vraiment une partie qu'il vous faut. Il va répéter ça à plusieurs reprises et vous devez cerner la partie là parce que c'est le cœur même de ce que nous sommes en train de dire. Oui.
Le verbe naître signifie être produit ou créé.
Yes.
Par conséquent, naître de nouveau signifie être produit ou créé de nouveau.
C'est-à-dire, la personne qui est née de nouveau n'est pas une chose qui a déjà existé.
Wow.
La personne qui est née de nouveau, c'est une personnalité qui n'a jamais existé.
Amen.
Donc, il n'y a pas à s'accrocher sur des anciennes habitudes. Si elle s'accroche sur des habitudes, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau, mais qui s'améliore. Elle n'est pas née de nouveau, mais elle s'adapte. Elle n'est pas née de nouveau, mais elle fait des efforts. Naître de nouveau, c'est que un miracle s'est passé, une nouvelle chose qui n'a jamais existé.
Maman.
Yes. Ça n'a jamais existé.
Wow.
Il n'y a donc pas dans des choses que tu dois. Non. Dès que tu as une ancienne habitude, il suffit qu'on envoie la parole sur l'habitude là, ouf, tu lâches. Parce que tu n'es pas lié à cette habitude. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens qui sont nés de nouveau n'ont jamais existé. Leur manière de réfléchir n'a jamais existé. Oh yes.
Magnifique.
C'est pourquoi on peut les conduire dans les choses de Dieu. On peut les conduire dans les choses de Dieu. Oui?
Il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de choses religieuses. Ces activités religieuses leur donnent le sentiment et l'apparence d'être chrétiens. Mais en réalité, ils ne le sont pas.
C'est l'ensemble des activités que nous faisons qui nous fait croire qu'on est de nouveau. On chante, on prie, on jeûne, on va à l'église, on lit la Bible, on prêche même. Et parce qu'on fait toutes ces choses, on croit qu'on est né de nouveau. Non, non, c'est pas ça, naître de nouveau. C'est pas ça, naître de nouveau. Naître signifie que la chose vient de commencer et qu'elle n'existait pas.
Yes.
Oui.
Être religieux ne vous fait pas naître de nouveau. Ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. En fait, en dehors du christianisme, aucune religion n'oblige une personne à naître de nouveau.
Aucune sur terre. Aucune religion sur terre ne parle de être une autre personne à l'intérieur. Aucune, ça n'existe pas. Seul le christianisme prêche le message que tu dois naître une deuxième fois.
Oh yes.
Seul le christianisme. Aucune autre religion ne parle de ça. Parce que c'est un mystère qui échappe aux autres religions. Oh yes. Oui. Quand vous voyez des gens qui disent que non, moi j'ai déjà 60 ans, c'est pas 60 ans qu'on me change, tu as raison, tu n'es pas né de nouveau.
Choc.
Tu n'es pas né de nouveau. Des petits enfants maigres, vilains, qui ne changent pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. Des petites filles bizarres dans l'église, ils ne changent pas. Vous n'êtes pas né de nouveau. Naître de nouveau, tu n'es pas traditionnaliste. Tu n'es pas un raciste. C'est-à-dire, toutes les choses que dans le monde, les gens ont ça là. Même si c'est en toi, dès que la parole vient seulement, boum, ça quitte. Boum, ça quitte. Vous savez, il y a la saleté, la saleté. Il y a la saleté où, dès que tu vas seulement sous la douche, la terre, ça tombe. Mais il y a la saleté que, si c'est l'huile de frein, l'huile de machin, c'est-à-dire, même si tu prends le savon, ça reste. Celui qui est né de nouveau peut être sale, mais sa saleté, dès qu'on prêche seulement, boum, ça quitte. Parce qu'il est né de nouveau. C'est une nouvelle personne dans une ancienne coquille.
Amen.
Mais c'est une nouvelle personne. Mais quand tu vois que l'attitude dure, hein, le choix là dure, la tradition là. Non, ça c'est vrai qu'on est chrétien, mais c'est quand même ma tradition. Tu n'es pas né de nouveau.
Amen.
Non, toi tu n'es pas né de nouveau. Tu as fait beaucoup de choses qui te font croire que tu es né de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau. Oui.
Yes. Toutes les grandes religions de ce monde donnent des instructions auxquelles leurs disciples doivent obéir. Il n'y a cependant aucune religion qui exige une nouvelle naissance intérieure.
Yes.
Le christianisme est le seul à faire cette demande. Pour comprendre ce que signifie naître de nouveau, nous pouvons regarder ce que naître de nouveau ne signifie pas.
Yes.
Pour comprendre mieux la Bible, j'essaie souvent de regarder l'opposé de ce qui est écrit. Cela peut être très révélateur. Par exemple, cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu. Écoutez l'exemple. Écoutez, on va faire maintenant un exercice qui va nous permettre de tous savoir. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais été exposés de manière claire à ce que c'est être né de nouveau. Et quand vous n'avez jamais été exposé à ça de manière claire, vous courez le risque de faire une église et de produire une église où les gens ne sont pas vraiment nés de nouveau. Yes. Écoutez, maintenant suivez-moi, je vais dire une chose. On est en train de citer un verset biblique. Écoutez, vous obéir en tant que fidèle et faire tout ce que vous me demandez de faire ne signifie pas que je suis né de nouveau.
Oh yes.
Par contre, la plupart des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, s'ils ont en face d'eux un fidèle qui fait tout ce qu'il demande de faire avec obéissance, avec soumission. Ah papa, ok, d'accord, on va prier ma fille, au compris, on va prier mon fils. Dit, le fidèle fait tout ce que vous dites dans votre cœur, pour vous, il est né de nouveau. Non, non, ce n'est pas parce que quelqu'un vous obéit et fait ce que vous dites qu'il est né de nouveau. Donc on va voir ce que naître de nouveau n'est pas.
Yes.
Oh yes. C'est bon ou c'est pas bon? Yes. Parce que vous pouvez tenter de travailler toute votre vie en produisant une église dans laquelle les gens ne sont pas nés de nouveau. Vous mourrez, vous arrivez au ciel, on vous dit, allez-y à gauche. Hein? Allez-y à gauche, attendez là-bas. Tout le monde est en train d'aller là-bas, je vois. Dit, monsieur, les choses que vous faites sur la terre, ce n'est pas ici.
Allez-y, choc. Allez-y
là-bas. On vous met en attente. Vous voyez les autres, même du Gabon, qui sont morts avec vous, ils rentrent.
Choc.
Tu fais quoi là? Tu fais quoi? On m'a dit d'attendre ici. Dis, allez. On vous met à gauche, en salle d'attente. On vous met à gauche. Et à ce que vous voyez un de vos fidèles mourir, il vient vous retrouver en salle d'attente. Il vous dit, papa, on fait quoi ici? Je ne sais pas pourquoi. Toute l'église qui meurt là-bas.
Choc.
Et vous voyez une autre église. Les gens meurent, ils vont là-bas. Ils rentrent avec des louanges. Comment ça va? Oh, vous faites quoi là? On nous a dit d'attendre. Mais toute l'église, oui, parce que toute l'église n'est pas né de nouveau. Yes, toute l'église n'est pas née de nouveau. Il faut savoir ce que c'est naître de nouveau. Notre niveau, c'est quoi? Yes. Allons-y. Voilà un exemple que Bishop Dag, il nous montre comment comprendre une chose dans la Bible. Deux fois, il faut renverser la chose. C'est-à-dire prendre l'opposé de la chose. Donc, il cite un verset de la Bible et il nous montre comment l'opposé peut se présenter.
Par exemple, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu.
Oui.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout.
Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais là, pour comprendre ça, il faut renverser.
Yes. L'opposé de cela est, ne cherchez pas d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses ne vous seront pas données par surcroît. C'est aussi simple que cela.
Donc, tous ceux qui ne mettent pas le royaume de Dieu en premier lieu dans leur vie, que Dieu vous bénisse en ne vous donnant pas tout ce qu'il veut vous donner.
Yes.
C'est ça qu'il faut comprendre. Yes. Moi, 2024, c'est ça. J'ai compris qu'en 2024, il ne faut plus accepter que les chrétiens méprisent Dieu. Yes, les chrétiens francophones. Tu sers Dieu, tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu, que Dieu te bénisse. Tu oublies Dieu, tu ne viens plus à l'église, tu ne donnes plus tes dîmes, que Dieu te maudisse.
Amen.
Clair. Et toutes mes églises vont prier comme ça. Parce que c'est comme ça, on a commencé.
Yes.
Viens, ma fille. On a commencé depuis, j'ai déjà initié. Même le 31, c'est notre prière. Comme ça. Ok. Ferme les yeux. Ensemble, on prie ensemble. Si tu aimes Dieu, Dieu va te bénir. Si tu n'aimes pas Dieu, tu meurs au mois de novembre.
Amen.
Toute l'église. C'est comme ça. Allons. Si tu sers le Seigneur et si tu es fidèle à lui, tu trouveras du travail.
Amen.
Si tu l'abandonnes, ton troisième enfant va faire l'accident.
Amen.
Yes. Toute l'année 2024, c'est comme ça que mon église va prier. On appelle ça la prière recto verso.
Yes.
En Afrique francophone, les gens n'ont pas appris. Ils pensent que Dieu est seulement un Dieu qui fait du bien et qui ne juge pas. Le Dieu que nous prions envoie en enfer. Le Dieu que nous prions. C'est pas ça. Le Dieu que nous prions, tu le suis, il te bénit. Tu l'abandonnes, tu vas en enfer.
Oh,
c'est le
yes.
Dieu que nous prions qui est comme ça. Pourquoi nous ne comprenons pas le Dieu que nous prions? Le même Dieu que nous prions a créé le paradis et il a créé quoi? L'enfer. Le même Dieu que nous prions. Les Juifs, son peuple, l'ont abandonné. Il a fait quoi? Il les a aveuglés.
Oh, yes.
Il les a abandonnés. Yes. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu où tu l'abandonnes, rien ne t'arrive. Tu n'es plus avec lui, rien ne t'arrive. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, tant que tu es avec lui, il est avec toi.
Amen.
Tu l'abandonnes, il t'abandonne. Il faut que les francophones acceptent que dans notre Bible, le même Dieu met devant nous la vie et la mort. Le même Dieu. Yes. Regardez comment les gens abandonnent Dieu. Regardez comment les gens méprisent Dieu. Même des pasteurs abandonnent Dieu. Non. Il faut ramener l'équilibre. Ça peut vous embêter, mais il y a beaucoup d'équilibre à l'intérieur. Regardez, tant que elle et moi, on aime le Seigneur, Dieu ne nous fait rien de mal.
Oh yes.
C'est ça ou c'est pas ça?
Ça.
Mais le jour, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point. Ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu périras. Si mon juste n'abandonne pas sa justice et il reste toujours juste, il prend plaisir. Le jour que mon juste se retire, quoi? Mon âme. Mais écoutez, ce que je vous dis là, je suis dans l'équilibre de la Bible. Dans la Bible, tu es avec Dieu, il est avec toi. Tu l'abandonnes. Israël l'a connu pendant des siècles. À chaque fois qu'ils abandonnent Dieu, Dieu l'envoie en exil. Dieu frappe Israël. Lisez bien toute votre Bible. À chaque fois qu'Israël abandonnait Dieu, les fléaux que Israël n'avait jamais connus frappaient le peuple. Et quand Israël revenait, Dieu dit, je te pardonne, je te restaure. Les années que j'ai, machin, vont revenir, n'est-ce pas? Et si Israël abandonne encore, Dieu refrappe encore. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui est équilibré.
Oh yes.
Parce que moi je vois dans l'église, dans notre ministère même, dans notre mission, des gens que Dieu a bénis. Ça veut dire, quand la personne est venue, elle n'était rien. Dieu a ouvert la porte, Dieu a marié, Dieu a fait ceci, la personne travaille, la personne a les enfants. La personne là, vous la voyez, elle dit, elle ne prie plus, elle ne vient plus à l'église, elle ne vient plus. Oh, Dieu qui t'a ramassé comme ça, tu l'abandonnes. Mon enfant, que Dieu te maudisse bien.
Maintenant.
Que Dieu te maudisse bien. Un jour, tu vas là à Montbouette, le ratat va passer sur ta jambe droite.
Oh yes.
Yes. C'est ça dans ma prière. C'est ça dans ma prière. Que ça aide-moi des gens comme ça. Bien. Merci. Donc toutes nos églises, partout, c'est comme ça qu'on va prier toute l'année 2024. Donc, si tu n'es plus avec Dieu, tu meurs demain. Je n'ai plus avec Dieu, je meurs demain. Si. On a dit, oh, mais ça c'est quel genre de prière? Ça c'est ma prière.
Oh yes.
Ça c'est ma prière. Toi, continue avec ton truc là. Tu vas voir ton église se vider. Comment les gens méprisent Dieu devant toi.
Oh yes.
Comment les gens méprisent Dieu devant toi. J'ai des fidèles étudiants. Rien. C'est-à-dire, quand tu vois l'étudiant là, tu sens que c'est un pauvre, misérable. Dieu l'a ramassé. C'est-à-dire, sans l'église, il serait mort de faim.
Yes.
Le ventre maigre. Un seul jean depuis 16 ans. L'église convertit le païen là. Il se convertit, il devient chrétien. Tout, tout, tout. Dieu ouvre les portes. À travers même les chrétiens, hein, Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre. C'est au moment où il prend la voiture de service qu'il n'est plus chrétien.
Sure.
Il vous dit non. Excès d'occupation.
Choc.
Il dit CTRI, m'ayant appelé au plus haut niveau. Donc, je parle de VLR. Dans nos églises, VLR. Il l'a appelé à un niveau où il doit. Nombreux dans VLR. Même des pasteurs missionnaires. 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 Parce que missionnaires. Nos missionnaires ont bénéficié et bénéficient des choses de l'église. Ça veut dire son mariage, l'église fait. Même sa dot, l'église a payé. Tout, 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 tout. Voyage à l'extérieur. L'église. C'est le même missionnaire. Il ne prie plus vraiment, il ne lit plus la Bible. Il dit que Bouddha
choc
a vécu à la même époque que Jésus. Quand tu es en train de dormir, l'église a créé un petit groupe pour que tu ne te réveilles pas demain.
Oh yes.
Toi tu es en train de dormir, tu ne sais pas qu'il y a un petit groupe. Dis, aujourd'hui c'est qui? Aujourd'hui c'est elle. Il ne faut pas qu'il se réveille demain. On est là, chaque là.
Amen.
Les filles, les mamans ou bien les machins enceintes là, on est en train de prier pour que sur un pied seulement qu'il y a des yeux qui sortent de ton
corps.
C'est-à-dire quand tu accouches, c'est un pied avec les yeux ici, le nez ici, un pied qui. Le docteur dit, ça fait quoi? Il tire comme ça, c'est un pied.
Choc.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Au nom de Jésus-Christ. Vous méprisez qui? Vous méprisez un Dieu qui t'a tout fait, un Dieu qui t'a sauvé, un Dieu qui t'a ramassé quelque part. Je vous invite, ça fait longtemps que vous avez lu la Bible, allez-y lire ma Bible. Vous allez voir comment Dieu traite Israël de la pire manière quand Israël l'abandonne. Allez-y lire votre Bible.
Oh yes.
Sophonie, Amos, Joël, Malachie, tout, allez-y lire toute votre Bible, vous verrez comment Dieu traite l'homme quand l'homme l'abandonne. Allez-y lire votre Bible. Ne restez pas seulement dans Luc.
Oh, yes.
Ne restez pas seulement dans Marc. Allez-y lire la Bible elle-même.
Man.
Et vous verrez. Et vous verrez. comment Dieu traite l'homme quand l'homme l'abandonne. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Très vrai.
Ah. Au Gabon, quelqu'un abandonne Dieu. Tu le vois en route, tu dis, comment ça va? Ah, il faut revenir à l'église. Il dit, oh papa, vous savez, les choses de Dieu là, on va revenir après.
Choc.
Ah, mon fils, bon d'accord. Quoi? Non. Non, 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 non. Il dit, son dernier enfant s'appelle comment? Pichou.
Okay. Oh yes.
Tu ne peux pas abandonner Dieu et puis tu t'en sors comme ça.
Yes.
Allez-y, lire votre Bible. Personne ne peut me convaincre du contraire. Je dis, relisez les livres. Vous allez voir comment Malachie dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Et il explique maintenant les conséquences. Allez-y, lire. Allez-y, lire votre Bible. Vous allez voir. Allez-y, lire comment Apocalypse termine. Apocalypse. 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 Si quelqu'un n'obéit pas aux paroles de ce livre, tous les fléaux,
oui,
tous les fléaux enfouis dans ce livre tomberont sur lui. C'est ce qu'Apocalypse fait à la fin. Comment nous on est dans un monde francophone où les gens abandonnent un Dieu si puissant et puis aucun prophète ne dit au peuple ce qui va leur arriver. Hey, attends. La plupart des livres prophétiques ont été écrits pour ramener le peuple à Dieu.
Oh yes.
La plupart des livres, Ésaïe, Ézéchiel, les livres prophétiques, le peuple, Jérémie écrit pour ramener le peuple qui abandonne Dieu. Tu dois prier Dieu même quand tu es fatigué. Parce que tu le lui dois. Viens prier. Tu dois donner à Dieu ta dîme. Parce qu'il a dit que si tu me voles, je frapperai ta vie de rouille. Dieu a dit. Donc reste fidèle. Faut pas prêcher un Dieu qui ne fait rien, qui ne sanctionne pas, qui ne punit pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu sanctionne. Dieu punit. Ça c'est le Bouddha. Ça c'est Bouddha que tu prêches maintenant depuis un bon bout de temps là. Allons-y sur les combien qui montrent que la nouvelle naissance n'est pas.
20 choses.
20 choses.
Yes.
La nouvelle naissance. Alors pasteur, si tu voulais déjà, si tu es même en train de faire tes papiers pour l'église, le thème qu'on aborde là, c'est que tu dois dire, ok, donc mes papiers disent que moi je prêche l'évangile, j'amène les gens à la nouvelle naissance. Ne dis pas que ministère de la flamme verte,
choc,
objectif, montrer la lumière. Les gars,
choc.
Ça c'est l'étude des tradis praticiens.
Amen.
C'est, l'église ne vient pas monter les lumières. L'église vient pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu.
Oh yes.
Nous présentons Jésus-Christ. C'est ce que l'église fait. L'église présente Jésus-Christ pour que les gens quittent le péché et n'aillent pas en enfer. Maintenant, c'est Jésus-Christ là qui, quand tu le reçois dans ton cœur, quand il rentre, on dit tu es né de nouveau.
Oh,
si
yes.
Quelqu'un est en... Dès que quelqu'un vient dans le Christ, il devient une nouvelle. Dès qu'il vient dans le Christ, c'est pourquoi tu es pasteur. C'est pourquoi tu es un homme de Dieu. C'est pourquoi tu es une femme de Dieu. Parce que tu apportes Jésus-Christ. C'est ça le livre. Le livre-là est très puissant. La nouvelle naissance est le sujet le plus important pour un païen. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance n'est pas?
1. Admirer les miracles n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Vous yes. pouvez vivre tous les miracles possibles. Ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau.
Yes.
Vous pouvez faire le témoignage que Dieu vous a guéri. Ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau.
Yes.
Non, il faut que vous le sachiez. Parce que comment je t'ai converti? Ah, moi. Si je te raconte mon témoignage.
Choc.
Ok, raconte. Je t'ai perdu.
Wow.
Un cancer de cerveau incroyable. Et je suis venu et à l'église. Et quand le prophète a prêché, la puissance de Dieu est rentrée en moi. La guérison, même tous les médecins étaient étonnés ici à l'hôpital général là. Wow. Tout le monde, mes parents, tout le monde chez moi va à l'église maintenant. Les gens, sure. Je te dis, je ne mangeais même plus, j'étais mort.
Wow.
Et depuis lors, là, je suis là. Ça, c'est pas naître de nouveau. Ça, c'est avoir été guéri.
Maintenant.
Avoir été guéri, c'est pas naître de nouveau. C'est clair ou c'est pas clair?
Clair.
Avoir été guéri, Jésus dit qu'il a guéri quoi? 10 aveugles. N'est-ce pas? 10 aveugles. Ils sont venus, Jésus a dit, allez-y. Au moment où ils partaient, ils ont tous été guéris. Un seul des 10 est revenu vers Jésus, rendre grâce. Quand il est revenu vers Jésus, Jésus a dit, il n'y a qu'un seul parmi les 10. Il a dit, ta foi t'a sauvé.
Wow.
Donc, lui n'était pas seulement guéri, il était maintenant guéri et sauvé.
Oh, yes.
Parce qu'il est revenu vers Jésus. Il ne s'est pas contenté du miracle, il est revenu vers Jésus. Le miracle l'a amené vers Jésus. Quand le miracle ne t'amène pas vers Jésus, tu n'es pas sauvé.
Amen.
Quand le miracle ne t'amène pas vers Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu es bénéficiaire du miracle, mais tu n'es pas sauvé. Yes, allons-y.
De devenir ami d'un homme de Dieu n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Ça, c'est une chose très, très, très subtile. Hein? Je peux vous rassurer. Les personnes qui sont très proches des pasteurs et des hommes de Dieu pensent à tout, sauf à la nouvelle naissance.
Yes.
Non, les personnes qui sont très proches des hommes de Dieu sont sûres qu'ils sont sauvés. C'est faux.
Yes.
La Bible a montré à maintes reprises, Gazi n'était pas sauvé, il était proche de Élisée. C'est ça ou c'est pas ça? Judas était le trésorier de Jésus, non? Il n'était pas sauvé. On peut être très proche de l'homme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. C'est pas ça la nouvelle naissance. Oui?
3. Donner de l'argent à une église n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Yes. Allons-y.
4. Adhérer à une église n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Faut pas confondre, hein? Ah, moi je prie maintenant à l'église la flamme verte. Depuis quand? Mais non, depuis 15 ans. 15 ans. Depuis 15 ans. 15 ans. 15 ans. C'est là-bas où j'ai rencontré mon mari.
Wow.
Là-bas où on... 15 ans. Et on restera là fidèle. L'homme là, c'est notre père. Ça, c'est notre père. Lui là, vraiment, on lui doit tout. Et là, tout ce qui là, c'est bien. Mais c'est pas ça être né de nouveau. Oui?
5. Jouer un rôle dans une église n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Être chante, être à l'accueil, être musicien, être ceci, écrire les prédications du pasteur, gérer le bureau. Tout ça là, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Oui?
6. Prier chaque jour n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Ah là, je suis sûr que ceux qui prient beaucoup croient qu'ils sont nés de nouveau. Ceux qui prient beaucoup tous les jours, c'est eux qui sont là, qui dirigent la prière. Ils croient qu'ils sont nés de nouveau. Non.
Yes.
Tu peux prier tous les jours, tu n'es pas né de nouveau. Oh yes.
Yes.
Oui.
C'est lire la Bible n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
La connaître, la méditer, la réciter ne signifie pas que tu es né de nouveau.
Yes.
Oui.
8. Être baptisé n'est pas la même chose que de naître de nouveau. Yes.
C'est clair ou c'est pas clair?
C'est clair.
Tu peux être baptisé tout dans l'église. Tu n'es pas né de nouveau. C'est pas ça la nouvelle naissance. Le livre là fonde même l'église. C'est-à-dire, si tu veux faire l'église, commence par le livre là.
Amen.
Parce que si tu ne commences pas l'église là, tu auras des fidèles que tu crois qu'ils sont nés de nouveau alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, quand un fidèle était dans une autre église et qu'il vient à votre église, faites-lui la prière du pécheur.
Yes.
Même s'il vous dit qu'il était ancien, il vous dit que c'était moi le collaborateur de l'apôtre Georges Olivier. Hein? Quand tu vois les trucs qu'il fait là, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai écrit même le livre de son église. Dis, ok, ferme les yeux. Mets-toi à genoux.
Oh yes.
faut pas suivre. Quelqu'un peut avoir fait tout ce qu'il peut faire. Ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Oui?
9. Être confirmé dans une église n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Yes.
Yes.
Pour ceux qui sont dans les religions où on confirme. Donc nous aussi, bientôt, on va mettre la confirmation. Nous, on a besoin de mettre la confirmation parce qu'il y a toujours des gens qui sont embrouillés. Il faut qu'on fasse la confirmation des catholiques. Oui.
10. Recevoir la Sainte Cène n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Ah oui.
Yes.
On peut être sur la table du Seigneur, on mange le sang, on boit le sang, on mange le corps du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Oui.
11. Être dans une famille chrétienne n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Vous savez, si tous les pasteurs, ou bien un grand nombre de pasteurs au Gabon, commencent à redresser leurs églises, on va influencer le pays.
Yes.
Non, je vous dis la vérité. Si on commence à redresser nos églises, on va influencer le pays. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez combien de personnes sont chrétiennes au Gabon? Beaucoup. J'allais dire, vous ne pouvez pas aller dans une administration sans trouver des chrétiens. Il ne faut pas suivre. Yes. Ça dit, c'est juste parce qu'on ne pose pas des questions. Je vous dis, les chrétiens sont partout. Jusque, on n'a pas affaire au vrai genre. Les églises ne produisent pas le vrai genre. Le premier ministre, lorsqu'il est intervenu à l'Assemblée, ils ont parlé de l'attitude du corps médical, l'accueil, comment. Et le premier ministre a dit, ok, on met l'accent sur le corps médical, mais la vérité, c'est que ça va bien au-delà du corps médical. Dans beaucoup d'administrations, la manière dont on vous reçoit, dans beaucoup, et allez-y fouiller, beaucoup sont chrétiens.
Yes.
Chrétiens qui dirigent même devant, qui chantent. Yeah. Qui chantent. Yeah. Ma fille qui a chanté là, elle est dans une administration. Il faut qu'on produise le vrai genre. Le vrai genre. Parce que si on ne produit pas le vrai genre, la personne qui te rend la vie difficile à l'entrée même d'une administration, tu vois seulement demain après demain, dès qu'elle voit son pasteur, elle dit papa,
oh, sure. Papa.
Tu dis oh, oui, elle est chrétienne. La même personne qui te rend la vie difficile est chrétienne. Oui, elle est chrétienne, elle est née de nouveau. Non, pas née de nouveau, mais elle est chrétienne. Elle va à l'église. C'est fou, hein? Donc, si. C'est pourquoi, vous savez, une des faiblesses du Gabon, c'est que les églises ne sont pas communautaires. Yes. C'est-à-dire, nous, le Gabon, les églises ne font pas des choses ensemble. Un peu comme on est en train de faire depuis plusieurs semaines là. Au Gabon, les églises sont dispersées, chaque église. Et donc, la faiblesse de l'église du Gabon, c'est qu'on n'est pas communautaire. Il nous faut un événement. Avant de nous rassembler, et avant de nous rassembler, là, il faut vraiment des réunions sur réunions. Vous savez, le directeur de Bishop Black a fait tout Libreville pour rassembler les pasteurs. Tout Libreville pour rassembler les pasteurs. Et c'est même le système du directeur de campagne qu'on utilise aujourd'hui. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de système. On n'a pas un esprit communautaire. On n'a pas un esprit communautaire. L'esprit communautaire est très puissant. Les Ouest-Africains utilisent l'esprit communautaire. L'esprit communautaire est très puissant. Quand vous avez l'esprit communautaire, c'est l'esprit communautaire qui fait en sorte que les gens arrangent eux-mêmes leur route. Vous savez, quand vous allez à l'église de la Chapelle des Vainqueurs, la route à pavé là, la route pavée qui amène l'église, c'est l'église qui a fait ça. Chapelle des Vainqueurs au Chabonnage, la route pavée là, c'est l'église qui a fait ça. Oui, l'esprit communautaire est très puissant. Quand vous avez l'esprit communautaire, comme notre route que vous voyez là, nous et tous les habitants là, on décide d'arranger la route là. C'est deux fois des petites choses. Il faut juste l'esprit communautaire. Essayez au Gabon, vous allez voir. Essayez au Gabon, vous allez voir l'esprit. Vous serez le seul. Essayez. L'esprit communautaire n'existe pas. L'Afrique centrale et le Gabon, l'esprit communautaire. Vous allez interpeller les gens. La chose commune, ça nous concerne tous. Si chacun de nous s'implique, on fait ça en 2, 4, 6. Les gens, non. Ils ne font pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une faiblesse pour l'église du Gabon. On n'est pas communautaire. Nous ne sommes pas communautaires. Il faut que Dieu nous aide C'est l'orgueil. C'est l'égocentrisme. C'est l'individualisme. C'est pas bon. Il faut l'esprit communautaire. Avec l'esprit communautaire, on peut faire comme ça. On claque les doigts seulement comme ça. On claque les doigts seulement comme ça. Les choses se réalisent. Vous comprenez? Yes, on y va. La nouvelle naissance, ce n'est pas quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut croire que c'est la nouvelle naissance alors que ce n'est pas la nouvelle naissance?
Employer le jargon chrétien n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Tu peux parler comme un chrétien, le langage d'un chrétien, mais ça n'est pas dit que tu es né de nouveau. Tu connais toutes les procédures, tu penses comme un chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau. Yes. Oui?
Le confessionnalisme n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Développer.
Le confessionnalisme ou l'ecclésianisme, ce n'est pas la même chose que de naître de nouveau. Être membre de l'une des grandes confessions de nos jours ne fait pas de vous un chrétien né de nouveau. Vous pouvez faire partie de l'Église internationale Le Phare, mais être un incroyant. De la même manière, vous pouvez faire partie de l'Église méthodiste, mais être simplement un incroyant méthodiste.
Vous savez, il y a des gens qui ont du mépris ou encore qui ont un esprit, une tromperie religieuse parce qu'ils appartiennent à un tout qui est renommé.
Yes.
Est-ce que vous comprenez ça? Ils appartiennent à un tout. Par exemple, je prends deux exemples. J'étais quelque part avec des gens et puis je les écoutais parler des pasteurs des églises de réveil. Une grande église. C'est une grande église au Gabon. Et puis, c'était des étudiants qui étaient en fin de cycle. Et puis, ils parlaient de certaines églises du Gabon. Et puis, j'ai dit à deux ou trois, j'ai dit, écoute, c'est pas parce que tu es dans la grande église là que tu es plus grand que celui-là. Regarde, en tout et pour tout, il te bat. En tout et pour tout. Parce que tu peux être catholique, mais tu n'es rien devant l'apôtre Georges-Olivier Mbazaboua. Parce que tu n'es pas le pape. Tu n'es pas un prêtre. Tu as juste le nom d'une confession. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait que tu appartiennes à une confession ne signifie pas que tu es cette confession. Yes. Et il y a des gens qui sont dans un grand mouvement et qui méprisent quelqu'un qui est dans, qui commence quelque chose. Non. Le fait que tu es dans un grand mouvement ne dit pas que tu es grand. Tu es juste dans ce mouvement, mais tu n'es même pas le fondateur. Tu n'es même pas le cofondateur. Tu n'es même pas le troisième. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Et deux fois, ça aveugle beaucoup de gens. C'est pour ça que vous dites, je suis protestant. C'est pour ça que vous dites, je suis catholique. Je suis... Même les églises de réveil, maintenant, aussi disent aussi, je suis des églises de réveil. Parce qu'on croit qu'il y a de la fierté à l'intérieur. Il n'y a aucune fierté à l'intérieur.
Yes.
Ça, c'est une chose. J'ai aussi encore vu maintenant le contraire de ça. J'étais dans une église, on m'a invité un jour. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est la responsable, gloire soit rendue à Dieu, son église s'est bien cassée. Et sa collaboratrice a pris tous les fidèles et ils l'ont traité de sorcière et toute l'église s'est vidée. Dimanche, il avait quoi? 500 fidèles. 500 fidèles. L'église commençait très bien. L'église commençait très bien. Et puis il y a la louange, tout se passe bien. Les gens sont en train de prier. Et quand on a fini, la responsable de l'église, la prophétesse, elle prend le micro. Elle dit Alléluia. Elle n'était pas elle qui devait prêcher. C'était pas elle qui devait prêcher. Elle avait seulement besoin de dire ça. Elle dit Alléluia. J'ai dit, je vous ai toujours dit, ici ce n'est pas Béthanie. Ici ce n'est pas l'Alliance chrétienne. Vous m'avez bien compris? Les choses que vous faites là, vous devez les faire à la Béthanie. Ici ce n'est pas Béthanie. J'étais là, j'ai dit, oh! Je ne sais pas où vous m'avez invité. Je ne sais pas où vous m'avez invité là-bas. Donc il y a des gens qui ont un jugement pour les gens parce que je ne sais pas, parce qu'ils ont un terrain ou parce qu'ils ont un bâtiment, ils se disent qu'ils sont loin. Son église, je l'ai rencontré, peut-être 5 ans, 6 ans après. Quand je l'ai rencontré, on avait reçu un invité et puis on s'est revu. Comment ça va? Oui. Mon église était déjà devenue 4, 5, 17 fois plus grande que son église. Et j'ai demandé, et comment ça va l'église? Elle m'a dit, tu connais mon pasteur tel nom? Oui, Nadège là, oui. Elle m'a pris tous les membres, mon église s'est cassée. Dans mon cœur, je dis, que Dieu te maudisse. Tu as dit que tu n'es pas Béthanie, tu n'es pas l'Alliance chrétienne. Vous voyez comment vous parlez des gens? Vous voyez comment vous parlez des gens? Vous dites à vos fidèles, vous donnez à vos fidèles une mauvaise image de l'église de Jésus-Christ.
Oh yes.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi dans vos églises, vous parlez mal des autres églises qui aussi prêchent Jésus-Christ? Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes en enfer. Pourquoi tu parles mal des autres? Pourquoi tes fidèles vont avoir une mauvaise image des autres églises? Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes de toi. Pourquoi? Il y a des gens ici qui parlent mal de l'église universelle dans leurs églises. Tu parles mal de l'église universelle, pourquoi? Ils prêchent Jésus-Christ. Ils prêchent Jésus-Christ. Tu parles mal de pourquoi? Tu n'as pas de message. Tu n'as pas de message. Tu veux que je te maudisse? Tu n'as pas de message. Regarde-moi ça. Tu fais ça pourquoi? Jésus-Christ t'a appelé pour sauver les âmes. Tu parles mal d'une partie de son église, pourquoi? Et tu dis ça aux fidèles. Pourquoi tu fais ça? Son église s'est cassée. Bien cassée. Comment tu peux dire en plein dimanche à 500 personnes, ici c'est pas Béthanie, ici c'est pas l'Alliance chrétienne? Comment tu peux parler comme ça? L'Alliance chrétienne, il n'y a pas, c'est pas des chrétiens. Béthanie, c'est pas des chrétiens. Comment tu peux dire ça en plein culte dimanche? Donc si vous faites ça, il faut arrêter ça. Sinon vous n'êtes pas né de nouveau et vous irez en enfer.
Oh yes.
Yes. Il ne faut pas parler comme ça. C'est une autre partie de l'église de Jésus-Christ. La main ne fonctionne pas comme l'œil.
Yes.
Quand quelqu'un ne fait pas comme toi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de Dieu.
Amen.
C'est juste un autre membre qui fonctionne différemment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il faut que l'église du Gabon s'arrange. Il faut que l'église du Gabon s'arrange. Tout le monde n'est pas la main, tout le monde n'est pas le pied, tout le monde n'est pas l'oreille. Il est normal que tu ne comprennes pas l'oreille si toi tu es l'orteil. Il est normal que tu ne comprennes pas l'oreille si toi tu es l'orteil. Amen. Il faut arrêter. Même quand tu n'es pas d'accord, ne cite pas nécessairement le nom. Parce que ça donne une autre image aux fidèles.
Oh, yes.
Et ça a grandi la division de l'église du Gabon. Pourquoi quand moi j'étais dans les choses là, j'ai failli mourir. Mes fidèles m'ont bien fait ça dur. Quand je suis sorti de là, j'ai dit je fais plus ça. Ce que tu fais, tu dis là, les fidèles vont te le faire à toi aussi. C'est pourquoi il faut pas le faire. Nouvelle naissance.
Être moraliste n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Yes. Avoir des bons principes en termes de moralité. Ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Être fidèle à sa femme, ne pas comme ça. Moi, je n'ai jamais fait un détournement. En 50 ans de service, je n'ai jamais fait un détournement. Ça, c'est ta propagande. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Oui.
Avoir des principes n'est pas la même chose que naître de nouveau.
Yes. Oui.
16. Être respectable.
Bishop Kahn explique dans cet élément un Rosicrucien avec qui il a discuté, qui n'a jamais, jamais trompé sa femme. Il n'a jamais regardé, même regardé seulement, une autre femme. Et Bishop Black dit, j'ai dit à cet homme, vous êtes très fidèle à votre femme, mais vous devez naître de nouveau. Attention, on peut avoir des principes simples. On a un caractère pointu. On a une attitude propre. Ça ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Oui?
16. Être respectable n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Oui?
Yes. 17. Être populaire n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair?
C'est clair.
Faut pas suivre. Hein? Un jour, il y a peut-être un mois, j'étais quelque part avec un pasteur et il m'a dit, ne t'approche jamais de tel prophète. J'ai dit, oh. Il dit, oui. Il m'a dit, il ne faut pas suivre, il fait la magie. J'ai dit, mais comment il fait la magie? Et il dit, je te dis, nous on l'a soutenu. Il a eu des problèmes graves. Nous l'avons soutenu à 1 million pendant un an. je parle, je sais de qui je parle. Et quand il m'a dit ça, moi aussi, avant qu'il me dise ça, je n'aime pas le prophète là sur Facebook. Mais je protégeais mon cœur. Je me suis dit, ah, peut-être que je n'aime pas, c'est pas bien. Il a lui dit qu'il faut aimer les autres. Mais je n'aime pas ce qu'il fait. Et quand le pasteur là, le grand pasteur là, m'a dit, lui là, moi-même, je l'ai soutenu un an. 1 million, je l'ai soutenu. Je te dis, ce qu'il fait, c'est la magie. Faut pas. Quand il a dit ça, j'ai eu la confirmation que j'avais donc raison de ne pas aimer. On amène les gens à Jésus-Christ. On n'impressionne pas les gens par des pratiques. Un jour, le pasteur qui m'a dit ça, il m'a dit, attends, je vais te prouver. Laisse-moi te dire pourquoi je te dis qui fait la magie. Il dit, j'ai une fidèle dans mon église. Il dit, tu vois le genre de fille des îles là, antillaises là, yeux verts. J'ai dit oui. Il dit, belle fille. Elle est assistée à son programme. Et quand elle a assisté à son programme, il lui a dit, je vois quelqu'un avec des yeux verts. Et il a dit, toi, la fille est venue. Et il a dit deux ou trois paroles. Puis il a dit, vois-moi à la fin. Et à la fin, quand tout est terminé, le pasteur me dit, mon fidèle m'a appelé. Il m'a dit, ah papa, je vais rencontrer tel prophète. Je lui ai dit, mais pour faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Il dit, ah, il a dit qu'il veut me voir. Après, la communication s'est coupée. Le pasteur me dit, quand le fidèle est allé, la fille là, quand elle est allée, elle a fini dans l'entretien. Elle a fini, c'est pas ça, a duré quoi, une semaine ou bien 2 mois. Il dit, quand tout est terminé, il dit, au lieu que la fille revienne à l'église, elle n'est même plus revenue dans le pays où l'église est. Elle dit, elle est allée dans un autre pays. J'ai tout fait pour la joindre. Il dit, quand j'ai réussi, j'ai dit, tu es où? Elle m'a dit, je suis à lui. Mon âme l'appartient. J'ai dit, oh! Il m'a dit, j'ai dit, mais ton âme l'appartient comment? Elle dit, il a tout pris. Je lui dis, attends. Il me dit, mais je te dis la vérité, ce qui s'est passé avec mon fidèle. J'ai dit, attends, mais comment, il a pris quoi? Il dit, j'ai demandé à la fille, quoi, vous avez couché ensemble? La fille dit, non, on n'a pas couché ensemble. Il a pris mon âme. Il a pris, je suis à lui. Il me dit, tu vois, l'homme, ça, c'est pas l'évangile.
Amen.
Ça, c'est des trucs mystérieux. Jésus-Christ ne prend pas les âmes des filles des Antilles. Jésus-Christ ne prend pas les âmes des filles des Antilles. Ça c'est quoi? Il a pris ton âme. Il a fait quoi? Le pasteur dit que j'ai insisté jusqu'à aujourd'hui. Elle ne veut pas en parler. Elle ne veut pas en discuter. Elle dit seulement, je l'appartiens. Il a pris mon âme. Il a pris mon âme, c'est quoi? Il a pris ton âme. Vous avez fait quoi? Il a pris mon âme. Ça, c'est pas né de nouveau. Faites attention à l'esprit populaire. Les gens peuvent. Est-ce que ce qu'ils font là, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça la prêcher Jésus-Christ? Est-ce que c'est attention aux pratiques qui rendent les gens populaires?
Oh yes.
Si il a pris mon âme, ça c'est quoi? Il a pris mon âme. Est-ce qu'on prend les âmes des autres? Quand tu prends ça, tu amènes ça où?
Vraiment.
Yes. Hey, ne pas être de nouveau, c'est quoi encore?
18. Obéir à un nouvel ensemble de règles n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Non, c'est pas la même chose. Oui. Yes.
19. Être un bon conjoint n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Yes. Avoir une femme vraiment soumise, ça ne veut pas dire qu'elle est née de nouveau.
Yes.
Avoir un homme qui te donne l'argent à la fin du mois, toujours, ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Oui.
Et enfin, être riche ou pauvre n'est pas la même chose que de naître de nouveau.
Les pauvres de l'église pensent qu'ils sont nés de nouveau. Oui. Beaucoup de pauvres chrétiens pensent que le degré de sa pauvreté là, le style de ses babouches, le style montre qu'il est né de nouveau. Non. Je vous dis, posez la question aux gens. Entre les riches et les pauvres, qui est chrétien? Beaucoup de gens vous disent que c'est le pauvre qui est chrétien. Parce qu'on croit que la pauvreté est synonyme de chrétienté. Non. Beaucoup de pauvres. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pourquoi? Dieu m'a oint pourquoi? Pour annoncer quoi? La bonne nouvelle à qui? Les pauvres ne sont pas chrétiens. La preuve, ils sont pauvres. Si on annonce la bonne nouvelle aux pauvres, c'est parce que les pauvres ne sont pas chrétiens. L'Esprit de Dieu est sur moi. Avant même de délivrer les captifs, avant de guérir les cœurs brisés, Dieu a d'abord dit de sauver les pauvres. Ce sont les plus perdus. Quand tu es pauvre, tu es perdu. Tu es pauvre. Yes. Quand Dieu fait venir l'homme au monde, Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, dit que nous sommes nés sans rien. Nous retournerons sans rien. Donc quand nous naissons nus. Parce que la vie, c'est exister pour acquérir. Bon, si toi, tu es né comme nous tous nus, et tu n'as toujours rien, tu es maudit. Tu n'es pas sauvé. Accepte Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est rendu quoi? Pauvre. Pourquoi? Que nous soyons. Donc tu ne peux pas rester pauvre. Tu n'as pas le droit de rester pauvre. La pauvreté, c'est le début de tout le monde. Après, tout le monde doit par la foi et par le travail. Mais tu ne peux pas rester pauvre. Tu ne peux pas rester pauvre. Ça veut dire que tu n'as pas compris la vie. Et donc, on doit t'annoncer l'évangile pour que tu sois sauvé. Amen. Maintenant, les riches, parce que ce sont les deux extrémités. Vous savez, je crois que la plupart des hommes de Dieu pensent qu'un riche qui prie est né de nouveau. Quand je vois les hommes de Dieu parler de tous ceux qui ont une responsabilité administrative élevée ou politique, ils veulent toujours faire croire que la personne est chrétienne. J'écoute souvent les pasteurs gabonais. Ils disent que tel ministre est né de nouveau. Vous l'avez vu naître de nouveau? Vous l'avez vu naître de nouveau quand? Qui a testé qu'il est né de nouveau ou pas? Je vous dis que quand quelqu'un est né de nouveau, il faut poser la question. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Vraiment, si c'était pas, si je n'avais pas les hommes de Dieu devant moi, j'allais tester. Mais si je fais ça, un homme de Dieu peut se fâcher comme ça. Parce que c'est facile de savoir. Bon, je peux même tester dans vers l'air. Hein. Là, ils ne vont pas se fâcher. Une de mes filles là. Ma fille, prends le micro. Viens, tu as chanté hier ici. On va un peu voir. Donnez le micro. On va voir si elle est née de nouveau. Elle chante souvent. Quand vous posez la question à quelqu'un, n'importe qui, même un prophète, même un homme de Dieu, même n'importe qui, quand vous voulez savoir ce qu'il est de nouveau, vous lui posez une question simple. Quand tu es né de nouveau, tu as fait quoi? Ne pas avoir peur, hein? Si tu n'es pas né de nouveau, on va t'aider. Mais tu dis ce que tu as fait. C'est la question là qu'on pose. Avec toute la simplicité, avec tout le respect, juste pour ça, vous allez voir la réponse. C'est la réponse qui va vous dire si la personne est née de nouveau. Le but n'est pas de vous mettre mal à l'aise ou de mettre la personne mal à l'aise. C'est juste de voir si vous ne vous trompez pas. Parce que naître de nouveau ne se fait que d'une seule manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, on y va. Qu'est-ce que tu as fait pour naître de nouveau? Puisque c'est toi qui chantes tous les jours maintenant.
Merci de m'avoir donné la parole.
Yes, ça c'est le langage chrétien. C'est là qu'on dit. Allez, elle parle. On a dit que même si tu fais ça là, tu n'es pas né de nouveau. On continue ma fille, on y va.
Alors, je suis née de nouveau. Je suis venue à l'église.
Très bien.
J'ai écouté la parole de Dieu.
Très bien. Acclamons déjà. Elle est en train d'avancer. Acclamons déjà. Mais ce n'est pas qu'on est de nouveau, mais ça avance un peu. On va attendre la fin. On y va. Continue ma fille.
J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai fait la prière de confession. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
D'accord.
J'ai décidé de changer toute ma vie.
Ok, comment ça s'est passé? Ça s'est passé où? Quand tu as fait la prière?
Ça s'est passé...
À l'église?
À l'église, après, lors d'une prédication. La prédication m'a touchée.
D'accord.
Alors le pasteur a demandé qu'on puisse venir devant.
D'accord.
Voilà, et le pasteur a demandé qu'on répète après lui.
D'accord. Et c'est ce que tu as fait?
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Le pasteur.
J'ai répété après le pasteur.
D'accord. Et donc depuis lors, tu marches avec Jésus?
Bon, y a
ou
eu
bien
un...
tu as pris encore dans le monde ou bien comment?
Non, il y a eu un processus.
D'accord.
C'est au fil des temps, avec la parole et les enseignements.
Mais tu crois que tu es né de nouveau quand? Au fil du temps ou bien un jour précis? Quand est-ce que tu es né de nouveau?
Un jour précis.
Quel jour?
Le jour que j'ai confessé Jésus.
Voilà, c'est un jour précis. La Bible prévoit que naître de nouveau, il faut que vous ayez entendu la parole. Un, il faut que vous ayez entendu la parole. C'est pourquoi elle dit, comment l'invoqueront-ils s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Donc il faut que vous ayez entendu la parole. Après avoir entendu la parole, la Bible dit, il faut que vous ayez cru dans votre cœur et que vous ayez confessé avec votre bouche. Donc vous entendez la parole parce que c'est comme ça que la foi vient. Vous croyez dans votre cœur, après vous passez à une confession ou vous faites une déclaration. Si vous n'avez pas fait ces trois choses, écoutez la parole, cru dans votre cœur et confessez, vous n'êtes pas né de nouveau. Peu importe tout ce que vous avez fait. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous ne l'avez pas fait, si on ne vous a jamais fait confesser ou bien vous n'avez vous-même jamais confessé Jésus-Christ ou vous le confessez, parce que ça peut se faire que ou on vous aide à le faire ou même vous-même vous le faites. Si vous n'avez jamais fait ça seul ou vous avez donné votre vie, je peux avoir votre téléphone? Alors, maintenant suivez. La confession dont il s'agit là, ce n'est pas le fait que vous ayez parlé. Hein. La confession, c'est que vous confessez quelque chose que vous faites. Ça veut dire pendant que vous parlez, vous donnez votre vie. Votre confession signifie que vous donnez votre vie à Jésus-Christ en reconnaissant qu'il est mort à la croix, il est ressuscité des morts à cause de vous. Et donc, à cause de ça, vous lui donnez votre vie. Si votre confession ne donne pas à Jésus votre vie, même si vous avez confessé, vous n'êtes pas né de nouveau. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est la confession qui vous sauve. C'est ce que la confession déclare et ce qui se passe qui vous sauve. Il faut que, parce que Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie pour contrôler votre vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour contrôler votre vie. Donc si, quand vous lui donnez votre vie, vous ne le faites pas, même si vous déclarez ça, mais si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sauvé. Il faut que votre déclaration soit une déclaration de quelque chose que vous faites vraiment. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te donne ma vie. Il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que vous la dirigez toujours. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Hein? Yes. Regardez la puissance de ce verset biblique. La puissance de ce verset biblique. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 à 15. Regardez la puissance de ce verset biblique. 2 Corinthiens chapitre 14, chapitre 5 verset 14 à 15. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. À deux. Ces passages montrent comment donner sa vie à Jésus-Christ est un acte puissant. Que si vous ne faites pas, même si vous déclarez, mais si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Que dit le texte? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14 à 15. Donc c'est ça la nouvelle naissance.
14 à 15, il est écrit... Car l'amour de Christ nous presse.
L'amour de Christ nous presse.
Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous.
Si Jésus-Christ est mort pour tous.
Tous donc sont morts.
Tous sont morts.
Et qu'il est mort pour tous.
Écoutez, et qu'il est mort pour tous.
Afin que ceux qui vivent.
Pour que ceux qui vivent.
Ne vivent plus pour eux-mêmes.
Ils ne vivent plus pour eux-mêmes.
Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Quand quelqu'un est né de nouveau. Sa vie ne lui appartient plus. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi l'église est faible. L'église n'a pas le droit d'être faible. Dès que quelqu'un est né de nouveau, la vie de cette personne n'appartient plus à cette personne. afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est obligé. Hein? Lisez les derniers éléments sur quand tu es né de nouveau, c'est quoi? Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne qu'on doit et qu'on peut guider par la parole de Dieu. Tu es devenu l'enfant de Dieu. Tu n'as pas seulement cru en Dieu, tu es devenu l'enfant de Dieu. Tu n'as pas seulement cru en Dieu, tu es devenu l'enfant de Dieu. Ce n'est plus toi qui vis. Levez-vous, frère pasteur. Dites avec moi, ce n'est plus moi qui vis. Dites avec moi, fortement, les enfants de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis.
Ce n'est plus moi.
C'est Christ qui vit en moi.
C'est Christ qui vit en moi.
Quand tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui vis. Quand tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui vis. Toi et moi, nous ne vivons plus. C'est Christ qui va faire tout ce qu'il veut à travers nos corps. Yes. La vie de Christ nous a été imposée par la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus tes goûts. Ce ne sont plus mes goûts. C'est la vie de Jésus-Christ. Dieu amène nos églises à produire la nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit.
Oh yes.
Nous devons nous fatiguer des fidèles. Nous voulons des gens nés de nouveau. Nous voulons nous fatiguer des membres qui ne sont pas nés de nouveau. Nous voulons des gens nés de nouveau. Mais ça ne vient pas de nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Seule la puissance du Saint-Esprit engendre la nouvelle naissance. Seule la puissance du Saint-Esprit. Suivez-moi maintenant, je vais prier avec vous, s'il vous plaît, pasteur. Ne pensez jamais que Dieu ne force pas. Dieu est le premier qui force. Dieu force bien plus que nous. Il nous a forcés d'être africains sans nous consulter. Dieu nous a imposé nos sexes sans nous demander l'avis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous savez que pour vous convertir, vous n'aviez pas le projet de devenir chrétien? Vous savez, Dieu est trop respectueux que quand il nous force, on veut même croire qu'il ne force pas. Il a forcé. Il a dit à Paul, tu ne peux pas résister à Saul de Tarse. Il a attrapé Saul de Tarse sur le chemin. Il lui a dit, tu ne peux pas résister. Dieu nous force. Dans son amour, il sait ce qui est bien pour nous. Et il nous l'impose par une main puissante et forte. Nous l'avons vu forcer Pharaon en Égypte. Nous avons vu Dieu forcer l'Égypte de libérer Israël. Dieu nous force. La nouvelle naissance, c'est un Dieu qui nous donne sa nature et nous impose sa vie. La nouvelle naissance, c'est la plus grande expérience. Je n'ai pas le choix. Même quand je ne veux plus être chrétien, une force à l'intérieur de moi m'impose la vie de Dieu. Oh yes, la vie de Dieu. Alors je veux qu'on prie pour qu'on ait une meilleure image d'un Saint-Esprit puissant qui nous a forcé la nouvelle naissance, qu'on apprécie que le Saint-Esprit est celui qui a forcé notre nouvelle naissance. Il le fera aussi pour les autorités du Gabon. Il va leur forcer la nouvelle naissance. Il va forcer au Gabon la nouvelle naissance. Les églises du Gabon vont connaître une force qui produit la nouvelle naissance. Nous devons accepter que la nouvelle naissance, c'est un Dieu qui te convertit sans te consulter. Oh yes. Oh yes. Il te convertit sans te demander ton avis. Il t'amène à adhérer à sa manière de vivre par une puissance qui est supérieure à toi. Supérieure à toi. Un Dieu qui nous fait pleurer. Vous pensez qu'il ne nous force pas? Dieu nous fait pleurer. C'est qui nous force les choses. Un Dieu qui nous donne des frissons. Un Dieu qui nous donne des frissons ne nous force pas. Il nous force. Il nous force. Il nous force. N'est-il pas le Seigneur des armées? Dieu n'est-il pas le Seigneur des armées? Comment Dieu peut-il convertir les gens sans peser de son poids? Il pèse de son poids. Pour nous amener à lui, il pèse de son poids. Alléluia! Il pèse de son poids. Je veux voir l'église de Jésus-Christ remplie des personnes nées de nouveau. Et cela est possible par la foi, parce que tout est possible à ceux qui croient. Est-ce qu'on peut se mettre à prier et voir des milliers de gens naître de nouveau? Est-ce qu'on peut se mettre à prier?
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apotregeorgeo@gmail.com ou au numéro suivant: +241 62 90 45 46. Soyez bénis.